Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour votre grand journal du soir. On s'élance jusqu'à 20h à la une ce soir. François Fillon jugé coupable et condamné à 5 ans de prison dont 2 fermes. On en parle dans votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Et son avocat maître Antonin Lévy est mon invité sur Europe 1 à 19h20. Soyez au rendez-vous. L'actualité du jour, c'est bien sûr la convention citoyenne, également les réponses apportées par Emmanuel Macron. 146 des 149 propositions validées. On en parle avec la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, en direct à mon micro à 18h20. 18h30, vos grandes voix, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve ce soir, et cette vague verte qui a emporté plusieurs grandes villes hier soir. Et puis à 19h30, on partage nos expériences de vie ensemble. Le confinement a-t-il changé votre regard sur l'école? Les nouveaux adeptes de l'école à la maison? On attend vos témoignages au 3921, hashtag Europe 1. Voilà pour ce lundi. On est ensemble pour écouter le monde changer jusqu'à 20h. C'est parti. Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Le temps est venu de faire, d'agir. Et ce temps d'action concrète, c'est celui que votre travail inaugure.
Le président de la République, plus vert que vert au lendemain de la vague écolo, Emmanuel Macron annonce 15 milliards d'euros pour le climat.
Il retient quasiment toutes les propositions de la Convention citoyenne, mais écarte le passage à 110 km/h sur autoroute.
François Fillon, lourdement condamné pour les emplois fictifs de son épouse, 2 ans de prison ferme et 3 avec sursis, il fait appel.
Cette décision, qui n'est pas juste, va être frappée d'appel. Et il y aura un nouveau procès.
Dans ce journal également, qui sera maire de Marseille? Suspense, ces tractations dans la cité phocéenne. Le troisième tour, ça y a commencé.
Ils ont coupé le chauffage et mené une vie d'enfer à leur locataire, infirmière, pour la pousser dehors de peur d'attraper le Covid. Ce couple de Montpellier était devant le tribunal aujourd'hui.
Et puis le footballeur Dimitri Payet veut montrer l'exemple. Il divise son salaire par 2 pour rester à l'OM.
Il fallait aujourd'hui que les joueurs fassent des efforts. Et je me suis dit que voilà, qui de mieux que moi pour montrer l'exemple.
La bourse de Paris dans le vert, rebond ce soir de 0,7% à 4 945 points.
Bienvenue Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Bonsoir à vous, le temps demain.
Eh bien demain, c'est une France coupée en deux que nous aurons avec comme frontière le fleuve la Loire. Au nord de la Loire, du gris. Au sud, l'été. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Il demandait à rouvrir le procès, à relancer les débats. Le couple Fillon n'a pas été entendu. François et Pénélope Fillon, jugés coupables, ont été lourdement condamnés. 2 ans de prison ferme, plus 3 avec sursis pour l'ancien Premier ministre, pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. Salomé Legrand, vous avez assisté à cette audience cet après-midi. Le tribunal correctionnel de Paris est donc passé directement à la case jugement.
Et oui, après un mot tout juste pour dire qu'elle avait bien reçu les conclusions de la défense, la présidente du tribunal, mine fermée, a détaillé les motifs de culpabilité des époux Fillon durant plus d'une demi-heure. Les contrats de madame n'avaient, je cite, aucune consistance, ne répondaient à aucun besoin de la transmission de courrier tout au plus. Quant à son activité auprès de Marc Joulot, le suppléant de François Fillon, ni le dossier ni l'audience n'ont permis de mettre à jour les tâches effectuées. Face aux 3 prévenus, droit comme des i, comme figé à la barre, la juge poursuit. L'ancien Premier ministre a fait prévaloir son intérêt personnel sur l'intérêt commun et s'est ainsi enrichi personnellement tout en contribuant à éroder la confiance des citoyens, d'où les peines lourdes, conformes, voire au-delà des réquisitions. 5 ans de prison dont 2 fermes pour François Fillon, 3 ans avec sursis pour son épouse comme pour Marc Joulot, inéligibilité pour tous. Le couple est aussi condamné à 375 000 euros d'amende chacun et à rembourser la totalité des sommes versées par l'Assemblée nationale, charges sociales et patronales comprises, un peu plus d'un million d'euros.
Salomé Legrand pour Europe 1.
Et le couple a immédiatement fait appel. Écoutez l'avocat de François Fillon, maître Antonin Lévy.
Naturellement, cette décision, qui n'est pas juste, va être frappée d'appel. Elle l'est en ce moment même et il y aura un nouveau procès. C'est d'autant plus nécessaire que depuis quelques jours, on commence enfin à comprendre ce que nous pressentons depuis 2017, les conditions ubuesques dans lesquelles cette enquête s'est déclenchée, les conditions scandaleuses dans lesquelles cette instruction a été ouverte, les conditions surprenantes dans lesquelles les investigations se sont ensuite conduites. Nous allons donc nous retrouver en appel et j'espère, avec tous les éléments qui manquent au dossier, on pourra enfin avoir un débat complet et serein et permettre enfin à la justice d'être rendue.
Et Maître Antonin Lévy, justement, qui sera mon invité tout à l'heure à 19h20 en longueur. Rendez-vous à ne pas manquer sur Europe 1.
Et puis, réaction politique ce soir chez les Républicains. François Fillon était condamné d'avance, estime Bruno Retailleau. Un trouble pour l'indépendance de la justice, pointe Valérie Boyer. Et Christian Jacob, de son côté, se dit stupéfait par la sévérité de cette condamnation.
Il est 18h04 sur Europe 1. La suite du journal, Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
L'herbe était bien verte ce matin, très très verte, derrière le président de la République, dans les jardins de l'Élysée. L'herbe, mais pas que, le discours aussi.
Ah oui, pas anodin, au lendemain de la vague écolo qui a marqué le second tour des municipales. Hier, Emmanuel Macron s'exprimait devant la Convention citoyenne sur le climat. C'est 150 citoyens tirés au sort. Hein.
Avec un certain nombre de promesses. On va s'y arrêter avec vous, Jean-Rémy Baudeau. Bonsoir.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
15 milliards d'euros sur 2 ans pour la transition écologique. Voilà donc une première promesse. Le temps est venu d'agir, dit le président. Il retient la quasi-totalité des propositions de cette convention citoyenne.
146 mesures sur 149. Emmanuel Macron a développé une idée, je cite, « remettre l'ambition écologique au cœur de notre modèle productif ». Fin de citation. Parmi les 146 donc propositions retenues, un moratoire sur les nouvelles zones commerciales, donc pour éviter l'implantation de nouvelles grandes zones, la rénovation thermique des bâtiments. Il a promis aussi de promouvoir les investissements dans les transport propre. Il ne l'a pas cité, mais de fait, il semble accepter l'idée, par exemple, de réguler la publicité dans pour les produits les plus polluants. Des mesures, sans rentrer dans le détail, encore parfois un peu flou, mais aussi de l'argent, vous le disiez. Un budget de 15 milliards sera injecté dans les 2 ans sur la transition écologique. Emmanuel Macron affirme que cet argent servira à la conversion écologique, à la rénovation des bâtiments et, je cite, à inventer les industries de demain.
Il a quand même fait jouer ce qu'il a appelé 3 jokers.
Oui, 3 jokers, 3 mesures de la Convention citoyenne qui ont donc été retoquées par le président. Il n'a pas repris la proposition de réécrire le préambule de la Constitution en plaçant l'environnement au-dessus des valeurs fondamentales de la République. Il a écarté la taxe de 4% sur les dividendes, expliquant que cela viendrait freiner les investissements étrangers. Alors ça, c'est très décrié du côté des ONG. Enfin, il a dit non à une mesure particulièrement emblématique et qui a fait débat la semaine dernière. Souvenez-vous, les 110 km/h sur l'autoroute, et le chef de l'État s'en est expliqué.
Si on fait ça, je vous l'écris, nos concitoyens qui sont dans les territoires les plus enclavés, qui parfois mettent tous les jours 45 minutes, une heure, en utilisant les grands axes pour aller travailler, ils vont dire, ok, leur projet, c'est un projet, il n'y a pas de place pour moi. Je n'existe pas. Et donc je pense qu'il faut faire maturer ce débat dans la société. Il faut aussi que les gens aient à chaque fois plusieurs options. Mais ne donnons jamais le sentiment à certains de nos concitoyens qu'on les met à l'écart. Et donc je propose de repousser ce débat. Je ne voudrais pas que vous connaissiez le même sort que moi, c'est-à-dire avoir des mois de travail qui s'abîment dans une polémique.
Voilà, des polémiques qu'on imagine que par ailleurs, ils pensent évidemment aux gilets jaunes.
Alors, on ne roule pas à 110 km/h sur l'autoroute, mais sur certaines autres questions, il se dit prêt à organiser un référendum.
Alors, on ne sait pas encore quels points seront proposés au vote des Français, mais Emmanuel Macron a posé le cadre de la méthode pour la suite. Là encore, rien de trop précis. On sait juste que les 146 mesures seront donc transmises au gouvernement ou au Parlement. Certaines seront intégrées au plan de relance de la fin de l'été. La plupart feront l'objet d'un projet de loi spécifique en septembre. Tout sera notamment discuté lors du prochain Conseil de défense écologique qui aura lieu en juillet. Pour Emmanuel Macron, néanmoins, il y a un enjeu, que ces mesures soient rapidement votées, appliquées, comprises par les Français. À moins de 24 heures après cette claque au municipal, cette claque écolo, le président de la République veut faire de cette convention citoyenne la base d'un virage écologique.
Merci Jean-Rémy Baudeau du service politique. J'ajoute qu'Emmanuel Macron veut pérenniser cette méthode. Il y aura d'autres conventions citoyennes sur d'autres sujets. Le Conseil économique et social sera reformé pour les accueillir.
Et la secrétaire d'État en charge de la transition écologique, justement, Brune Poirson, sera mon invitée juste après ce journal. Elle pourra répondre à cette première réaction. Celle de Clément Sénéchal, Sébastien, le porte-parole de Greenpeace.
Tant qu'on n'a pas le texte de loi voté, on ne donnera pas crédit à Emmanuel Macron d'un quelconque tournant écologique. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il nous parle d'un virage vert. Il avait fait les états généraux de l'alimentation, il avait fait le grand débat, il avait fait l'acte 2 du quinquennat, on a voté une loi énergie climat, et là ça fait quasiment un an qu'aucune réforme climatique n'a pourtant été adoptée par sa majorité.
La réaction de Greenpeace recueillie par Virginie Salmen. Voilà donc pour cette réponse forte que promettait dès hier soir l'Élysée face à cette déferlante écologiste. Ces grandes villes conquises par les Verts, Lyon, Bordeaux, où nous serons à 19h, Strasbourg, mais aussi Besançon et Tours.
Et tout cela avec une abstention record. Nous avons le chiffre définitif ce soir, 41,6% seulement de participation. C'est 20 points de moins qu'il y a 6 ans. On revient également sur les enseignants de ce scrutin avec les grandes voix à 18h30.
Quant à Marseille, eh bien c'est la fin de l'ère Gaudin. C'est aussi une candidate écologiste qui est arrivée en tête. soutenu par toute la gauche, Michel Rubirola. Mais ce soir, ce n'est pas tout à fait fini. Hein. Nathalie Chevan, vous êtes à Marseille. Les tractations ont commencé parce qu'elle n'a gagné qu'avec une majorité relative.
Oui, entre Michel Rubirola et Martine Vassal, la candidate LR, il y a une troisième femme qui va beaucoup compter toute cette semaine. C'est Samia Ghali, la sénatrice des quartiers nord, forte de ses 8 sièges décrochés au conseil municipal et qui se positionne en faiseuse de Rennes, très courtisée, bien que le printemps marseillais n'imagine pas que l'ex-socialiste puisse rallier la droite. Samia est une femme de gauche, veulent croire les militants, mais se joue aussi en coulisses d'autres intérêts plus personnels avec les élections sénatoriales du mois de septembre. Quant à Martine Vassal, elle ne s'avoue pas vaincue et au sein de la droite marseillaise commence à émerger un début de scénario, proposer un autre candidat pour le fauteuil de maire, moins clivant, une candidature alternative. C'est la proposition du dissident LR Bruno Gilles, fort de ses 3 sièges, qui lui aussi peut faire basculer l'hémicycle dans un sens ou dans l'autre. Car il faut le rappeler, la gauche n'a que 3 conseillers municipaux de plus que les Républicains, ce qui veut dire que d'ici samedi, date du prochain conseil municipal, toutes les alliances de circonstances peuvent se nouer, sans oublier les élus du Rassemblement national.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Et hasard du calendrier, dans ce contexte où l'on parle beaucoup d'écologie, la centrale nucléaire de Fessenheim, la plus vieille de France, est en train de vivre ses dernières heures. La procédure d'arrêt du réacteur numéro 2 a commencé cet après-midi, avec même un peu d'avance. Arrêt définitif, c'est ensuite un long processus de démantèlement qui va commencer. Nous serons sur place à Fessenheim dans le journal de 19h.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Et à suivre dans votre édition de 18h, un couple au tribunal à Montpellier accusé d'avoir harcelé leur locataire infirmière pour qu'elle parte de peur d'attraper la Covid.
Et puis Dimitri Payet veut montrer l'exemple, il divise son salaire par 2 pour aider l'OM.
Europe 1.
18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et nous en venons maintenant à ce couple de propriétaires qui était devant le tribunal aujourd'hui à Montpellier, accusé d'avoir tout fait pour se débarrasser de leur locataire.
Ouais, une locataire, une infirmière qui vivait juste en dessous de chez eux et dont ils craignaient qu'elle les contamine. Il y aurait même coupé l'eau chaude. Pierre Herbulot, vous avez suivi ce procès aujourd'hui. Et malgré l'émoi qu'a provoqué cette affaire, le couple a ce soir été relaxé.
Oui, toutes les demandes des parties civiles ont été rejetées. Le harcèlement d'abord, le manque d'eau chaude, une surconsommation liée à l'arrivée dans l'appartement de plusieurs membres de la famille de Mélina, l'infirmière. Les coupures d'électricité, un simple fusible qui aurait sauté pour la tentative d'enfumage de l'appartement au pot d'échappement. Une vidéo diffusée par l'avocat de la Défense le montre. La voiture était loin de la fenêtre qui était d'ailleurs fermée. Le couple de retraités, chemise à fleurs assortie, reste impassible. L'infirmière, elle, s'agite sur son banc quand le président remarque que les faits reprochés se déroulent toujours quand elle est au travail et qu'il serait plutôt dirigé contre sa famille qui vient de s'installer. Ça n'a pas de rapport avec votre métier d'infirmière, lui demande-t-il. Pas directement au début, concède-t-elle, avant de rappeler qu'elle a tout de même fini par déménager. Après un jugement express et donc aucune condamnation de ses propriétaires, Mélina ne cache pas sa rancœur.
Je trouve ça honteux, en fait, voilà. Je trouve ça honteux. Ça laisse porte ouverte à beaucoup de choses. Je trouve ça... On a passé énormément de temps, on y a laissé beaucoup de choses, beaucoup de la santé aussi. Donc je trouve que des fois la justice n'est pas bien faite, voilà, simplement.
Tout sourire à la sortie du tribunal, Maître Legret, l'avocat de la Défense, voit lui une victoire de la justice sur l'emballement médiatique.
Comme je l'ai dit, on était tous derrière nos héros. Et quand on a cru, je répète, quand on a cru qu'un de nos héros était chassé, il a fallu abattre le méchant. Mais il n'était pas méchant. Donc il y a eu cet emballement judiciaire, mais... Le tribunal correctionnel l'a stoppé dans ces conditions, satisfaction. C'est un petit conflit de voisinage qui n'aurait peut-être même pas suffi au tribunal d'instance ou mérité un contentieux devant le tribunal d'instance.
De l'infirmière harcelée en plein confinement au simple donc conflit de voisinage, les juges du tribunal de Montpellier ont donc tranché.
Pierre Herbulot, envoyé spécial d'Europe 1 à Montpellier.
Et c'est suffisamment rare hein, pour qu'on en parle, pour qu'on vous le raconte, une star du football qui baisse son salaire et ça se passe à l'OM.
Et les finances du club sont mal en point après des mois d'arrêt des matchs. Et le numéro 10, Dimitri Payet, dit vouloir montrer l'exemple. Simon Rubin, il a accepté de diviser son salaire par 2 la saison prochaine.
Oui, alors on parle quand même d'un salaire à 500 000 euros, donc divisé par deux, et une autre baisse est même prévue la saison suivante, baisse de 30%, et puis le joueur renonce également à certaines de ses primes. Dimitri Payet qui veut ainsi donner l'exemple.
Le club m'a donné, aujourd'hui j'ai envie de lui rendre. Mon geste a commencé à germer dans ma tête quand le président a commencé de parler de la phase 2, qu'il fallait aujourd'hui que les joueurs fassent des efforts, et je me suis dit que voilà, qui de mieux que moi pour montrer l'exemple.
Et l'OM ne veut pas s'arrêter là. Outre Payet, le gardien Johan Pelé a fait la même chose, même si là on parle d'un salaire moindre. Désormais, les équipes du président Jacques-Henri Hérault ciblent trois joueurs, trois gros salaires, Florian Thauvin, Steve Mandanda et le néerlandais Kevin Strootman. Alors, les négociations s'annoncent serrées. Si Mandanda, 35 ans, qui est en fin de carrière, pourrait tout à fait accepter de baisser un peu ses revenus, ça semble beaucoup moins évident pour un joueur comme Florian Thauvin, 27 ans et qui lui a encore plusieurs années devant lui.
Simon Rubin du service des sports, merci. Effectivement, il va lui rester un peu,
oui, ça
même
va aller
s'il divise par deux.
Pour les vacances. Merci beaucoup Sébastien Krebs.
À tout à l'heure.
Anissa, une nouvelle dégradation qui arrive comme ça.
Oui, je vois que vous la scrutez, cette dégradation. Vous l'avez bien repérée, elle arrive et elle arrive par l'ouest demain matin. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça nous donne sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le Cotentin, la région parisienne, les Hauts-de-France et même les Ardennes. Donc vraiment sur un gros quart nord-ouest du pays demain et puis une belle partie du nord. Un ciel très nuageux avec demain des averses qui vont se maintenir toute la journée. Ça veut dire que demain, au nord de la Loire, sur toutes ces régions, vous aurez une journée qui sera partagée entre nuages et éclaircies et hop, une petite averse. Donc c'est parapluie obligatoire près de vous toute la journée. Sur la moitié sud du pays, au sud de la Loire, il fait très beau demain. C'est une belle journée estivale avec un soleil qui brille dans un ciel bien dégagé. Sur le quart nord-ouest du pays, sur les côtes bretonnes et les côtes de la Manche, comme dans le sud, les côtes varoises, la Corse et le pourtour méditerranéen, c'est le vent qui se lève, le vent d'ouest qui souffle jusqu'à 90 km/h. Les températures, elles sont agréables le matin avec 10 à 15 degrés en moyenne sur l'ensemble du pays, jusqu'à 21 au bord de la Grande Bleue. Et puis dans l'après-midi, c'est frais avec 18 à 23 en bord de Manche, 23 à 27 au nord de la Loire, 25 à 30 dans le sud et jusqu'à 35 au bord de la mer.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invitée dans un instant, Nathalie Lévy.
Oui, 15 milliards d'euros supplémentaires pour accélérer la transition écologique. Les engagements d'Emmanuel Macron après la Convention citoyenne pour le climat et au lendemain, surtout de la vague verte de ces municipales. Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, est mon invitée sur Europe 1 dans deux minutes.
18h20, votre grand journal du soir se poursuit. Nathalie Lévy avec votre invitée ce soir. Vous recevez la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson.
Bonsoir Brune Poirson, bienvenue dans ce studio Europe 1. Merci d'être avec nous. Alors voilà, c'est évidemment plus de 146 mesures retenues. Emmanuel Macron avec ce vert, très vert aujourd'hui derrière lui. Mais quand même, cette question... Est-ce réellement démocratique de ne soumettre au vote que les mesures pour lesquelles le président est déjà d'accord, tenu d'un référendum sur 146 des 149 propositions de la Convention climat ?
Ce qui serait pas démocratique, ce serait de pas laisser justement à ceux qui ont été élus démocratiquement par les Français, aussi bien le Parlement que bien évidemment le président de la République, eh bien le choix de faire des, et de prendre des grandes décisions. C'est déjà une avancée démocratique majeure que d'avoir mis en place cette Convention citoyenne pour le climat. C'est une volonté de pousser nos institutions plus loin, d'aller mettre en œuvre des choses qui n'avaient jamais été mises en œuvre, jamais lancées auparavant.
Mais il prend peu de risques quand même. Il a écarté des choses. Il a écarté notamment le 110 km/h. Pourquoi ?
Mais parce que, comme beaucoup de Français l'ont souligné, eh bien, ils pensent tout simplement, en tout cas, c'est pas une mesure qui, visiblement, suscitait l'adhésion des Français. Et puis aussi, il y a un élément sur lequel, je crois, il faut essayer de dire les choses. Parfois, vous travaillez pendant des mois, voire des années, sur un ensemble de mesures, sur un projet, et l'ensemble s'effondre, presque comme un château de cartes, parce qu'il y a une mesure relativement anecdotique, qui retient toute l'attention. Et donc le président de la République l'a dit d'ailleurs aux citoyens qui étaient présents, et ils ont applaudi le président de la République quand ils lui ont dit « c'est une mesure qui ne fait pas suffisamment consensus, laissons-la de côté ».
Sur les dividendes, vous allez me dire la même chose alors ? Sur le fait que taxe de 4% sur les dividendes, pourquoi écarter ce principe ? On sait très bien ce qu'attendent les Verts là-dessus, et pas seulement d'ailleurs.
Alors, je voudrais d'abord rappeler une chose, c'est que l'écologie est une demande très forte de tous les Français, mais l'écologie n'appartient pas à Europe Écologie Les Verts. L'écologie appartient et doit appartenir à tous, ça fait d'ailleurs partie du projet que le président de la République porte, qui est un projet d'écologisation de la société, premièrement. Deuxièmement, sur la question des dividendes, pour réaliser la transition écologique, il faut investir massivement. Il faut mettre des milliards sur la table d'argent public, mais aussi d'argent privé. Et en particulier de l'argent privé. Si on veut mobiliser cet argent-là, il faut pouvoir continuer à attirer des investisseurs.
Mais est-ce que...
à ne pas les effrayer. Et avec une taxe, c'est-à-dire une fiscalité punitive à nouveau, je pense que nous détournerons de la France des investisseurs qui voudraient investir pour nous aider à transformer les choses.
Ça, c'est la réponse qu'a dit très vite Emmanuel Macron. Mais quand même, est-ce que il a pris la dimension vraiment de la cohérence du projet écolo qui s'attaque aussi aux super-profits?
Alors, oui, totalement. La preuve, qu'est-ce qu'il veut mettre en place? Il dit, sur la table, on va mettre 15 milliards d'euros. L'objectif, c'est quoi? C'est aussi d'attirer des capitaux privés pour justement favoriser les investissements dans la transition écologique, et ça, là, de façon massive. Puisque, vous l'avez dit, on peut parler pendant 10 minutes de toutes les mesures...
Il y en a trois qu'il a mis de côté, c'est surtout sur celle-là qu'on est...
On peut parler pendant 10 minutes des, comme vous l'avez dit vous-même, trois mesures sur 149 qu'il a mis de côté. On peut aussi parler et réitérer le fait que le président de la République a dit qu'il les prendrait toutes et qu'il les soumettrait sans filtre, voire à terme un référendum, et ça pour les 146 mesures.
Alors,
et on va s'y atteler dès là, dans les semaines qui arrivent.
Non, mais bien sûr, les semaines qui arrivent, mais quand même, pas immédiatement. Non, est-ce que vraiment l'environnement a encore des mois, un an à perdre?
Mais il y a juste tout simplement une organisation de travail, c'est-à-dire que là on va être début juillet, on va mettre en place, enfin le président va convoquer un conseil de défense écologique, il l'a dit, avant la fin juillet, dans lequel on identifiera et on aura déjà identifié toutes les mesures réglementaires qui pourront être prises et mises en œuvre, et il y en a beaucoup, il y en a d'autres qui doivent passer au Parlement. Il faut tout simplement aussi suivre le rythme des institutions démocratiques.
Alors, évidemment, le président qui répond aussi aux accusations d'écologie punitive, notamment formulées par la droite et par le MEDEF. Pourquoi on en est là? Le 110 km heure, les super profits, tout ça, c'est une manière de, peut-être de conforter Édouard Philippe?
Alors, moi, je pense que tout ça, c'est surtout une manière de dérouler la transition écologique et surtout de respecter et de faire honneur à ce que ces 150 citoyens ont fait pendant des mois. Ils se sont vus à 7 reprises. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour donner et fournir des propositions au président de la République. Il les a reprises toutes, sauf 3, effectivement. Et je crois que ce qui est punitif, ce serait plutôt d'empêcher l'investissement en France. Ou en tout cas de le freiner. Parce que si on veut de l'emploi sur les territoires, et c'est aussi ce que le président de la République a dit, il a dit la transition écologique, oui, mais je fais et je reprends tout l'esprit de ce que m'ont demandé les citoyens, c'est-à-dire la justice sociale. Et ça, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose de pouvoir investir sur tous les territoires, partout. Vous voyez, moi je viens d'un territoire comme le Vaucluse. Ce que je veux et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des investissements qui soient dirigés aussi sur ces territoires. Parce que là aussi, il y a des demandes d'emploi qui sont très fortes.
Ouais. Alors, action-réaction, évidemment, on a vu le résultat hier des élections municipales. Emmanuel Macron, c'était prévu en amont, mais Emmanuel Macron, évidemment, qui reçoit ses 150 membres de la Convention climat aujourd'hui même. Quelles ont été vos erreurs selon vous? Pourquoi on en est là? Pourquoi ce résultat hier soir?
Sur les résultats des municipales, non mais effectivement c'est un résultat qui est décevant. Maintenant je pense qu'il faut, et attention je ne nie pas la part de déception dans ce résultat-là, je pense qu'il faut aussi répéter que nous n'avons jamais eu une approche naïve de ce scrutin municipal. On a toujours su, et pour le coup, c'est même pas qu'on l'a su, c'est un fait, La République En Marche est un parti politique qui est jeune, qui a moins de 5 ans, et donc nous visions 10 000 élus municipaux en France, et à peu près nous pensons ce que nous obtiendrons, et ça nous permettra de commencer à ancrer localement, dans les territoires, La République En Marche, ce mouvement-là, ce qui ne nous a pas empêché de travailler aussi avec d'autres formations politiques, de les aider.
Justement, vous avez choisi dans ces municipales de vous allier avec les Républicains dans ces municipales. Souvent, vous êtes resté droit dans vos bottes. Vous ne vous êtes pas renié en allant vers la droite.
Je crois que, et ça pour le coup, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Je crois que une partie d'Europe Écologie Les Verts, alors bien sûr ils vont hurler, mais une partie d'Europe Écologie Les Verts, c'est aussi renier un peu, parce que quand on voit le travail qu'on fait avec eux, main dans la main, au niveau européen, et c'est ensemble, et ils savent que la France porte des positions qui sont non seulement très ambitieuses, mais qui arrivent à aboutir. Je pense par exemple au plan de relance européen, je pense par exemple à la loi climat au niveau européen, tout ça on travaille main dans la main. En France, on leur a proposé dans certaines villes de travailler main dans la main. Moi je le vois, dans le sud de la France, il y a des villes qui sont restées aux mains de maires qui étaient notoirement presque anti-écologistes, qu'on aurait pu gagner si on avait travaillé ensemble.
Mais peut-être vous n'êtes pas en amont, parce qu'aujourd'hui les écologistes peuvent vous regarder avec quand même des doutes. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas allié avec les Verts? Parce que finalement...
Parce qu'ils ont refusé.
Bah, oui, mais
c'est ce que je vous dis. Ils ont refusé. Regardez par exemple à Aix-en-Provence. Là encore, c'est la maire sortante qui a été élue.
Mais comment ils peuvent avoir confiance aujourd'hui? C'est ça que je veux
présence.
Dire. Comment ils peuvent avoir confiance aujourd'hui?
Mais parce qu'au niveau européen, on travaille main dans la main, on se fait confiance et ça fonctionne. Il y a des choses qui avancent et non seulement des choses, mais il y a des éléments absolument majeurs, comme par exemple la loi climat, comme le plan de relance européen. Tout ça, on le fait main dans la main. Main dans la main au niveau européen, et ce qui est intéressant, c'est de voir cette schizophrénie justement du parti Europe Écologie Les Verts. Mais après, au-delà de ça, ça ne nous empêche pas, nous, et c'est ce que vous voyez, de mettre l'écologie au cœur de la relance. Parce que là, on peut parler beaucoup des résultats municipaux, et c'est vrai que c'est important. Bah, mais les Français, là, en ce moment, ils ont aussi pour beaucoup une angoisse qui est la relance de l'économie. Et nous, ce que nous voulons, c'est dès le début que l'économie soit relancée sur des bases qui soient fondamentalement écologiques. C'est ça le projet de société que nous menons.
On peut le mener en
opposition frontale. Je ne pense pas que ça soit comme ça qu'on construise un projet écologique. Je pense que l'écologie est trop importante pour qu'on n'essaye pas de travailler sur des consensus qui puissent émerger, des consensus forts. Et la Convention citoyenne nous l'a prouvé. Donc ça veut dire que c'est faisable et c'est ce qu'on s'efforce de faire.
Merci beaucoup Brune Poirson d'être venue ce soir vous en expliquer sur Europe 1. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy. Les grandes voix qui sont pas loin, là, du studio. Je les vois juste derrière la porte. Gérard Carrère, Charles Villeneuve. Avec, évidemment, l'affaire Fillon, la décision. Et puis, toutes ces villes repeintes en vert. C'est avec lui, c'est avec eux même, dans un petit instant.
Europe 1.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Et votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Il y aura un deuxième procès Fillon. L'ancien Premier ministre et son épouse font appel de leur lourde condamnation prononcée aujourd'hui pour détournement de fonds publics. François Fillon est condamné à 2 ans de prison ferme, plus 3 avec sursis, 375 000 euros d'amende, 10 ans d'inéligibilité. Il devra aussi rembourser la somme d'1 million d'euros à l'Assemblée nationale. Au lendemain de la vague verte au municipal, Emmanuel Macron affiche son ambition écologiste. Il retient la quasi-totalité des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, promet 15 milliards d'euros pour la transition écologique et se dit prêt à soumettre certaines mesures à référendum. Il écarte, en revanche, le passage à 110 km/h sur autoroute. Le gouvernement annonce une enveloppe de 300 millions d'euros pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers. Pour les syndicats, le compte n'y est pas. Médecins et personnel soignant ont prévu une nouvelle journée d'action et de mobilisation pour l'hôpital demain. Si policiers de Seine-Saint-Denis en garde à vue à l'IGPN. Aujourd'hui, ils sont accusés de détention et de transport de stupéfiants. La procédure d'arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim a débuté. Elle sera débranchée ce soir avant un long processus de démantèlement. Nous serons sur place à 19h. Et puis 850 suspicions de fraude déjà identifiées au sein des entreprises qui ont bénéficié du chômage partiel financé par l'État. 850 suspicions sur les 3000 premiers contrôles effectués par le ministère du Travail.
Merci Sébastien. L'info revient avec vous à 19h. Anissa, des nuages au nord, plus ensoleillé au sud.
Mais c'est exactement ça, la France est coupée en deux demain avec une limite qui sera au niveau de la Loire. Alors il faut savoir qu'au nord de la Loire, demain le ciel sera gris avec pas mal de vent au bord de la Manche jusqu'à 90 km/h. Au sud de la Loire, c'est du soleil et le soleil qui sera de plus en plus généreux, de plus en plus brillant. Plus on descendra vers la Méditerranée. Alors les températures, comptez 10 à 15 degrés, ça se maintient le matin, 10 à 15 degrés en moyenne sur l'ensemble du pays, jusqu'à 21 degrés dans le sud. Et puis dans l'après-midi, c'est forcément plus frais au nord, avec 18 à 23 degrés en bord de Manche, 22 à 27 au nord de la Loire, sur toutes les régions qui vont de la Bretagne jusqu'à l'Alsace, 25 à 30 dans le sud et jusqu'à 35 degrés demain après-midi à Nîmes.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, avec jusqu'à 19h, les grandes voix qui vous entourent, Nathalie Lévy, ce soir, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Bonsoir messieurs, bienvenue.
Bonsoir Nathalie.
Alors voilà, le temps est à l'action. Déclaration d'Emmanuel Macron en endossant quasiment toutes les propositions aujourd'hui des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Il les a reçues à l'Élysée au lendemain du large succès au municipal des écolos qui reste circonspect. D'ailleurs, il aurait presque pu se vêtir en vert, Emmanuel Macron, aujourd'hui à ce stade. Charles Villeneuve.
Écoutez, moi je trouve que
il a évité le pire et qu'il s'en est bien sorti. Objectivement, il a donné le sentiment qu'il a écouté la Convention citoyenne. Sans en faire trop, il a tenu bon sur deux principes et refusé des mesures quand même qui disent beaucoup de ses choix profonds et de la suite politique. Les deux principes d'abord. Il refuse de mettre l'environnement au-dessus des droits fondamentaux et au-dessus des libertés publiques. Il a dit clairement « je ne veux pas mettre la protection de la nature au-dessus des droits humains ». Et deux points, le deuxième point est très important pour moi, il a refusé de sacrifier le développement économique à l'écologie. Il a clairement dit qu'il était pour la production, pour la croissance. C'est un credo, je trouve, productiviste. Il a refusé toutes les mesures d'alourdir la fiscalité verte sur les entreprises, les 4%, et il a refusé la baisse à 110 km de la vitesse sur autoroute. C'est un discours, selon moi, on verra ça après avec Gérard, qui ouvre la voie au maintien d'Edouard Philippe.
Ah voilà, tout est là alors selon vous Charles Villeneuve. C'est un peu la question que j'ai posée à Brune Poirson tout à l'heure, qui était avec nous dans ce studio, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique. Elle n'y voyait évidemment pas de lien de cause à effet. Gérard Carrérou, vous, quelle lecture vous faites?
Bah, d'abord, je dirais que le président de la République, comme d'habitude, a de l'imagination et de l'intuition. Mmh. Il s'est dit « Ah, le vert est à l'honneur, si j'ose dire. Le vert est mis, comme on dit.
Le vert est mis.
Donc le vert se porte bien, etc. On en a eu la preuve absolue hier avec cette succession de grandes villes qui sont tombées dans l'escarcelle des verts. Donc, je pense qu'il a trouvé que les verts étaient un peu la potion magique pour 2022. Pourquoi ? Parce que ils ont fait, effectivement, à travers tous les Verts qui ont participé à la Convention citoyenne, il n'y avait pas que des Verts, mais il y a eu pas mal d'experts et de conseillers autour qui ont un peu orienté vers des choses qui plaisent aux Verts. Donc, il y a dans 150 propositions, il leur a dit, je les prends. Je prends tout, sauf, effectivement, Charles vient de rappeler, les 110 km,
la taxe de 4% sur les dividendes.
Et puis, la partie constitutionnelle qui serait difficile à faire passer. Ouais, mais hormis ça, il prend tout. Il prend tout et il fait le gros chèque. 15 milliards,
ça se pose là.
Ça fait quand même ça. Bon, ça impressionne, quoi.
C'est incroyable, donc, d'ailleurs, entre nous, Gérard, ce qu'il distribue depuis un certain temps.
Oui, mais ça fait rien, puisque c'est de l'argent qu'on, pour l'instant, on ne remboursera pas.
On remboursera
peut-être nos petits-enfants, les rembourseront.
Je pense qu'on annulera toutes ces dettes.
Donc, je pense qu'il a... Il a effectivement, c'était bien, la chorégraphie était bien organisée, le timing était parfait, on vote aux élections municipales, les Verts triomphent.
Je récupère.
Dès le lendemain matin, je suis là, sur la pelouse de l'Élysée, et je leur dis, chiche, allons-y les gars, etc. Tout va bien. Alors, la dernière chose que je veux dire, c'est un peu la réponse à Charles. Est-ce que ça veut dire... Il le fait de manière modérée. Il ne cultive pas le vert extrémiste. Lui, il cultive un peu le vert responsable. Mais malgré ça, est-ce que c'est quand même pas incompatible avec les orientations du Premier ministre ? Parce qu'on sait que le Premier ministre, il a des orientations assez jansénistes sur l'économie et sur un certain nombre de sujets. Et peut-être que même avec cette retenue de Macron ce matin, c'est déjà beaucoup. Hein. Or, vous savez bien que le Premier ministre a encore redit, il y a des choses qu'il peut prendre, il y a des choses qu'il ne peut pas prendre. Il y a des choses qu'il peut faire et pas faire.
Donc, contrairement à toi,
je laisse ouvert.
Alors, dans une seconde, Charles, vous reprenez la main, évidemment, les grandes voix jusqu'à 19h.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy avec les grandes voix, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Alors, on l'a dit, redit, Emmanuel Macron repeint en vert depuis les résultats aux municipales. Et vous étiez, vous, Gérard Carrérou, sur la question de savoir si Édouard Philippe pouvait être maintenu, sachant que les 110 km/h, Emmanuel Macron a tourné la page, les 4% de dividendes, pareil. Charles Villeneuve, pour vous, ce sont des gages pour... conforter Édouard Philippe, le faire rester, vos arguments.
J'ai bien perçu, évidemment, la question ouverte que pose Gérard. Moi, je pense que c'est une porte ouverte au maintien de Philippe. Bon, je n'ai pas certitude, bien sûr. C'est vrai que Édouard Philippe n'a pas les chines souples. Et donc, écarter la fiscalité verte des 4% sur les entreprises, écarter le 110 km/h, peut justement, si vous voulez, éviter d'avoir un accroc avec le Premier ministre. Mais pour moi, il y a un autre phénomène politique qui s'ajoute, qui est très important, c'est qu'il y a un nouvel axe politique qui s'est constitué, écolo-socialo. Pas socialo-écolo, écolo-socialo. C'est un axe d'opposition. Or, le président de la République, il est dans la perspective de son élection de 2022, qui ne se présente pas...
Sur ce point-là, on est d'accord.
Formidablement bien. Or, il a un Premier ministre dont la structure d'appui, 50% dans l'électorat général, 54% même, il progresse, dont la structure est faite surtout des Républicains, du Modem, des centristes, des centre-droits, et de 93% de la des électeurs de La République En Marche. Il ne va pas... Il voit déjà son socle de gauche s'affaiblir, il ne va pas affaiblir son socle de droite et mettre au piqué un homme qui, de manière éclatante, a été élu
hier au Havre.
À 59%, près de 60% au Havre.
Oui, alors moi je retourne très exactement l'argument, parce qu'au contraire, je considère que le fait qu'il y ait véritablement un bloc de gauche, qu'en gros les écolos, c'est la partie... maintenant la plus comestible de l'axe de gauche. C'est ce qui fait élire un certain nombre, non seulement de socialistes un peu fatigués, mais un certain nombre de socialistes un peu usés, et avec l'étiquette écolo, ça permet de faire passer. Donc, pour le Premier ministre, c'est la gauche. Et je pense qu'il peut y avoir dans la tête d'un homme comme Édouard Philippe l'idée que, à trop ploter, si j'ose dire, je prends ce mot un petit peu familier, à trop ploter les écolos, quelque part, on fait un peu un virage à gauche. Or ça, s'il y a quelque chose dont Édouard Philippe ne veut pas, c'est du virage à gauche.
Alors, justement, ces écolos, tiens, quelle importance faut-il leur donner ? André nous appelle de Strasbourg et vous pose la question. Bonsoir André, bienvenue sur Europe 1.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question très simple. En période où il y a une abstention tellement forte, peu importe les raisons, c'est pas le problème, mais il y a une abstention très forte, il y a une élection dont les deux tours ont été séparés de presque 4 mois, quelle est la valeur, sur le long terme des résultats des écolos, dans la mesure où un parti bien typé, bien marqué, mobilise très fortement ses électeurs, et les autres électeurs ne viennent pas voter. Autrement dit, en nombre de voix que représentent les écologistes, pas grand-chose par rapport à la surface de l'électorat total.
Je peux répondre à ce monsieur. Je crois que vous avez raison, monsieur, sur un point, c'est que c'est effectivement un vote relativement fragmentaire. Et on n'a pas pu véritablement apprécier, parce que le premier tour était déjà tellement loin derrière nous, il y a plusieurs mois, et il s'est passé tellement de choses. Je pense simplement qu'il y a quand même un électorat écolo très typé, est très intéressant, et c'est celui-là que Macron regarde avec convoitise, c'est les gens entre 30 et 60 ans qui sont dans les grandes villes.
C'est ça.
Cet électorat de classe moyenne ou de classe moyenne supérieure, qu'on appelle autrement, moi je les appelle quand j'en parle de manière simple, je dis c'est les bobos.
Les bobos.
Bon, les bobos intéressent beaucoup Macron, parce que quelque part il y a beaucoup de connivence entre le président Macron et le côté bobo. Donc cet électorat-là, il existe. Mais il ne faut pas avoir des lunettes grossissantes. Les écolos, effectivement, dans la France profonde et dans la France hors des 8 ou 10 ou 12 grandes villes, ils sont beaucoup plus faibles qu'ils ne sont apparus hier soir.
Et si je prolonge la question d'André, si on n'avait pas eu ce confinement, ce Covid, cette coronavirus, est-ce qu'on aurait pu avoir ce résultat, selon vous ?
Alors, moi je ne le crois pas. Moi je vais prendre des lunettes rétrécissantes, si vous voulez, parce que je pense que la crise sanitaire et le fait même que le président de la République, en acceptant avec la pression des oppositions, il ne faut pas l'oublier, de faire le premier tour en pleine crise et de reporter le deuxième tour au mois de juin, alors que la crise n'est pas encore terminée, automatiquement, il se privait de tout le vote des seniors qui, eux, ne sont pas obligatoirement des bobos. Et le vote des seniors, notamment, c'est 62% des seniors qui sont pour Édouard Philippe. C'est dans le dernier sondage, si vous voulez, la structure du dernier sondage pour Édouard Philippe, notamment de, pas seulement de BVA, c'est-à-dire la maison avec laquelle nous travaillons, mais aussi de l'IFOP qui met aujourd'hui Philippe comme celui qui a le plus d'imagination pour rénover la France.
Mais beaucoup de ces seniors, Charles, ne se sont pas mobilisés justement hier.
C'est ça.
Absolument.
C'est-à-dire
que c'est un électorat de droite captif en général, qui là, par peur de la maladie ou pour X raisons, raison.
On est d'accord.
Ouais. Oui, on est d'accord.
Voilà,
on est d'accord.
Très bien. Alors restons là-dessus. Merci à André de nous avoir appelé depuis Strasbourg.
Et André a une très bonne analyse.
Exactement. On se retrouve dans un instant. On va quand même se parler de cette décision pour les Fillon, le couple Fillon. Jugement sévère, juste. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans un instant, les grandes voix.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Nathalie Lévy et les grandes voix, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve, jusqu'à 19h.
Dans un instant, on va revenir sur le jugement dans le couple Fillon aujourd'hui même, juste ou sévère. Ça, c'est dans un instant, mais d'abord, c'est municipal, avec ce grand virage écolo d'Emmanuel Macron. Messieurs, ce résultat, Brune Poirson me le concédait. Oui, nous sommes déçus, ils l'ont tous dit. Nous sommes déçus, mais il fallait s'y préparer, ils savaient très bien. Ils savaient tous très bien à La République En Marche.
Oui, vous savez, la société, en fait, c'est la société politique française et la démocratie française qui sont quand même mal en point. Parce que c'est le désastre pour La République En Marche, qui ne s'impose pas du tout. Le parti, je les prends très vite. Le Parti communiste perd une bonne partie de ses villes. Le Front National en perd aussi, et c'est Perpignan qui est un peu l'arbre qui cache la forêt. Les Républicains qui avaient fait un bon premier tour dans les villes, disons notamment les villes de moins de 30 ou 40 000 habitants, sont beaucoup moins bons. Là, ils perdent un certain nombre de villes.
Mais ils restent majoritaires sur le plan des municipalités.
Ils restent majoritaires sur le global, mais ils sont quand même pas, ils sont pas frétillants. Le PS, lui, j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, le fond de sauce tient, mais c'est quand même juste. Quand il n'y a pas les écolos,
pas les verts,
on a vu Martine Aubry, c'est passé ric-rac.
Borderline, hein.
Donc, il y a un problème. Il n'y a donc, dans ce paysage, qui continue à être un paysage de dégagement, et on voit aussi dégager les...
Et vous ne m'avez pas parlé de la France insoumise.
Elle a choisi d'être absente. Il faudra qu'elle explique un jour pourquoi, mais elle a choisi vraiment, délibérément, d'être absente. Et Mélenchon a donné des leçons de sciences politiques. Mais il n'est pas parti sur le terrain. Là.
Moi je voudrais faire une remarque, si vous voulez, avec l'arrivée à la tête de grandes villes comme Bordeaux et Lyon, de néophytes qui vont gérer l'économie de très grandes villes et des collectivités locales, dont les recettes fiscales liées à l'activité des entreprises en 2020 seront versées en 2021. Or, ces entreprises en 2020, depuis 4 mois, ne font aucun chiffre. Donc les recettes de 2020 s'annoncent catastrophiques. Il faudra soit reporter tous les investissements qui sont prévus dans leur programme, augmenter les impôts locaux, faire des économies de fonctionnement, tu es obligé de ravaler tes ambitions sur les transports en commun, sur l'environnement, sur la rénovation des bâtiments publics. Déjà en 2020, les caisses des villes ont beaucoup dépensé avec les masques et les plans de soutien aux entreprises. Donc ce sera très difficile.
Donc il faut avoir les reins solides, et pour des néophytes, vous pensez vraiment que c'est mission quasiment impossible.
En tout cas, mission très compliquée.
Mission très difficile. On a une question de Grégory de Tourcoing. Bonsoir Grégory, bienvenue sur Europe 1.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Oui, j'avais une question effectivement sur votre avis concernant l'impact justement de la défaite de l'REM aux élections municipales sur la présidentielle. Pensez-vous que ça puisse avoir réellement un impact, ou est-ce que les spécificités du scrutin municipal tel qu'il s'est déroulé et les spécificités également des alliances sur place vont-elles ou non avoir une incidence sur les élections présidentielles?
Moi, je dirais peu, Gérard.
Parce que d'abord, le parti du président, il n'a jamais véritablement existé. C'est un mythe. Il a existé après l'élection présidentielle, faire élire 300 et quelques députés. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Voilà, dans la foulée de la présidentielle, je ramasse des députés. Mais après, il faut des partis qui soient installés, etc. C'est pas le cas. Donc je pense qu'il n'a jamais eu véritablement... Et je pense que Macron a d'autres ressources. Et en fait, il joue peu sur
l'ancrage
territorial, l'installation durable d'un parti à la manière du Parti Socialiste ou du Parti Républicain ou des Républicains. Je pense que c'est... Ou du Front National même. Ce n'est pas son jeu politique. Lui, il joue autrement. Il joue un jeu particulier.
Alors, votre question et les élections et les résultats des élections municipales conduisent, si vous voulez, le président de la République à finalement n'avoir aucun choix sinon celui de proposer deux référendums pour se relégitimer. Oui. Et c'est aussi un pari très risqué, parce que finalement, au sein de La République En Marche, il n'y a plus qu'une seule personnalité qui tient. C'est le chef de l'État, en gros.
Mais c'est ça, c'est un test pour lui-même. Donc,
et c'est un pari risqué, parce que rappelons-nous que le général de Gaulle l'avait fait en 1969, il était parti, il n'est pas le seul. Notamment, le Premier ministre italien aussi avait pris ce risque, il a été battu. Très souvent, c'est un vote sanction qu'on va chercher.
Merci à Grégory de Tourcoing et merci à vous messieurs. Si, pardonnez-moi, je fais semblant, c'est pour faire un petit effet. Quand même, l'affaire Fillon, François et Pénélope Fillon reconnus coupables cet après-midi, le jugement du procès de l'ancien Premier ministre avec le réquisitoire était lourd. Les peines sont conformes, ou presque.
Ils l'ont aggravé avec les 10 ans.
Encore plus lourd.
Les 10 ans d'inéligibilité.
Donc, jugement juste ou sévère, messieurs? Qu'en pensez-vous de ce jugement?
C'est très sévère. Alors... c'est un jugement sévère. Alors, je me garderai bien de dire s'il est juste. Je dis simplement que c'est un jugement très sévère comparé à un certain nombre de... Je vois, par exemple, j'ai toujours tendance un peu à comparer avec Cahuzac, qui n'a pas fait un jour de... En tout cas, je ne me prononce pas sur le fond. Mais moi, ce qui me choque et continue de me choquer, j'espère peut-être avoir des éléments lors du procès en appel ou lorsque le Conseil supérieur de la magistrature, qui a été mandaté par le président de la République, interviendra. J'espère qu'on aura des éclaircissements sur la façon... Non, mais on peut être sceptique, ça je te comprends, Charles. Mais moi, j'espère encore dans la justice de mon pays. Donc j'espère qu'on saura dans quel... Comment dire, j'allais dire magouille, je retire le mot magouille, dans quelle rupture avec les traditions on a opéré avec célérité, soi-disant, pour priver la droite de son candidat à l'élection présidentielle.
Charles Villeneuve, votre lecture de ce jugement?
Mais écoutez, moi je trouve que c'est très sévère, mais les faits sont avérés, c'est vrai. Mais autant sur l'emploi fictif, sur la revue des Deux Mondes, je trouve que ça tient debout, autant sur l'emploi fictif en ce qui concerne la collaboration de Madame Fillon auprès de son mari à l'Assemblée nationale, c'est typiquement une immixtion de la justice ne tenant pas compte de la séparation de pouvoir. Je pense que la liberté de l'agenda d'un député et le fait même qu'il dépense son enveloppe, si vous voulez, budgétaire au profit de sa femme, comme ça a été le cas et démontré à l'audience, dépend du président de l'Assemblée nationale et du bureau de l'Assemblée nationale. Rappelons-nous que dans la Constitution, le président de la République, Charles de Gaulle, avait considéré que la justice n'était pas un pouvoir, mais une autorité. Il se rappelait que tous les magistrats, à l'exception d'un seul, en 1941, avaient voté les pleins pouvoirs, prêté serment auprès du maréchal Pétain, à l'exception d'un seul, le père d'André Rousselet, Maurice Rousselet. C'est le seul magistrat qui n'avait pas prêté serment. Et cette déloyauté, si vous voulez, à l'égard du maréchal Pétain, le président de la République, lorsqu'il a demandé à Jean Foyer de faire cette constitution de la Ve République, s'en était souvenu. C'est la raison pour laquelle il avait considéré qu'il ne fallait pas considérer la justice comme un pouvoir, mais comme une autorité. Et je trouve que cette autorité, de plus en plus, est devenue un pouvoir.
Oui, notamment dans cette affaire, je partage tout à fait ton point de vue. Rien ne dit et rien n'autorise. Rien n'autorise les juges à décider de ce qu'aurait dû être l'emploi précis. On peut penser que c'est immoral. Moi, je pense que c'est pas moral.
Oui, on est d'accord.
Mais c'est pas le sujet. Rien ne permet de dire que la justice devrait dicter ce qu'aurait dû être l'emploi du temps et le travail de Madame Fillon. Il y a eu, et Dieu sait s'il y a eu des emplois fictifs ou semi-fictifs, c'était à la discrétion des parlementaires sous l'autorité de leur assemblée, et ce n'est pas une affaire de la justice. Alors du coup, je rejoins Charles, la justice essaye d'élargir son magistère à la morale. Et la morale n'est pas la justice.
Je ne sais pas si c'est de la morale ou de la moraline, comme dirait Nietzsche.
Alors en tout cas, l'affaire Fillon n'est pas finie. L'appel, c'est pour dans 2 ans à peu près. Donc évidemment, on aura peut-être un an, mais Antonin Lévy avait plutôt tendance à dire 2. On verra, on en reparlera, bien entendu. Et avec vous, les grandes voix, merci beaucoup, à demain.
Je vous en prie.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy.
Dans un instant, c'est Sébastien Krebs de retour pour un nouveau journal complet à 19h en direct.
Europe 1.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et la suite du programme, Nathalie.
Alors la suite, c'est demain. Et oui, après 19h, c'est comme ça que cela se passe. La future défense de l'avocate François Fillon condamnée à 2 ans de prison ferme. Maître Antonin Lévy, l'avocat de l'ancien candidat à la présidentielle, est mon invité dans 20 minutes. Et puis à 19h30, quel avenir pour l'école? L'école à la maison est-elle une possibilité? Cela fait en tout cas de nombreux adeptes depuis le confinement. Et vous, on attend vos témoignages au 3921, hashtag Europe 1.
Et votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
De toute façon, il n'y avait que deux solutions. Soit on arrêtait la centrale, soit elle nous pétait à la figure. Il vaut quand même mieux qu'on l'arrête.
La plus vieille centrale de France débranchée. Ce soir, la procédure a commencé. Fessenheim s'éteint après avoir agité les débats sur le nucléaire pendant des années.
Demain en France, justement, notre énergie sera-t-elle plus propre? Éclairage à suivre avec Jean-Pierre Montanet.
Soignants et médecins à nouveau dans la rue. Demain, nouvelle journée pour l'hôpital. Les revalorisations salariales promises sont jugées insuffisantes.
Le couple Fillon fait appel. Il y aura donc un nouveau procès. L'ancien Premier ministre lourdement condamné avec son épouse pour détournement de fonds publics.
Les vainqueurs d'hier soir ont déjà les mains dans le cambouis. Quelles seront les premières mesures des nouveaux maires écolos? Nous irons à Bordeaux.
Et puis demain dans Le Monde, comment lutter contre le terrorisme au Sahel? Emmanuel Macron a rendez-vous avec ses homologues africains en Mauritanie.
Décryptage à venir avec Didier François.
Et Anissa du côté du temps.
Eh bien c'est deux salles, deux ambiances pour demain. La France coupée en deux. Du gris sur la moitié nord. Une journée estivale sur la moitié sud et des températures qui grimpent dans le sud. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
43 ans de service et combien d'années de débats autour de Fessenheim, la plus vieille centrale de France, qui a longtemps cristallisé l'opposition des antinucléaires, est en train de s'éteindre ce soir. La procédure d'arrêt du réacteur numéro 2 a commencé. Elle sera totalement débranchée dans les heures qui viennent avant d'être progressivement démantelée. Jean-Jacques Héry, vous êtes sur place et ce soir, les militants écologistes marquent le coup.
Oui, les écologistes français et allemands se sont donné rendez-vous pour le symbole sur un pont qui enjambe le Rhin à la frontière entre les deux pays.
C'est l'aboutissement de 50 ans de lutte commune entre Français et Allemands pour protéger notre cadre de vie dans cette région du Rhin supérieur.
Les deux cortèges se sont rejoints avant de jeter une bouée symbolisant l'industrie nucléaire dans le fleuve. La manifestation a eu lieu 15 km en amont de Fessenheim. Les écologistes n'ont en effet pas voulu provoquer les salariés de la centrale après 40 ans de lutte, parfois houleuse. André Hatz, figure de proue de la lutte antinucléaire au sein de l'association Stop Fessenheim, exulte.
Un grand soulagement. De toute façon, il n'y avait que deux solutions. Soit on arrêtait la centrale, soit elle nous pétait à la figure. Il vaut quand même mieux qu'on l'arrête. C'est quand même une étape importante, mais... il y aura encore 56 autres réacteurs à arrêter en France. Vous voyez qu'il y a encore du boulot.
Mais les écologistes gardent encore un œil sur la plus vieille centrale nucléaire de France. Ils s'inquiètent notamment du combustible nucléaire radioactif qui sera encore stocké dans des piscines pendant 3 ans.
Jean-Jacques Héry, envoyé spécial d'Europe 1 à Fessenheim dans le Haut-Rhin.
Et justement, demain en France. Bonsoir Jean-Pierre Montanet.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Sébastien. Bonsoir.
Alors, une fois la centrale de Fessenheim fermée, comment va-t-on compenser cette perte?
Alors, d'abord Nathalie, que les Alsaciens dont le courant électrique dépend à 90% de Fessenheim ne se rassurent. Pas de pénurie à l'horizon, dit-on à EDF. À l'échelon national, même si l'hiver prochain est très rude, pas de coupure généralisée à redouter, mais une grande vigilance quand même, et peut-être des coupures ciblées temporaires. En cause, bien sûr, cette fermeture, mais aussi le corona qui a gelé les chantiers de maintenance des centrales. Résultat, 100% du parc nucléaire ne sera pas opérationnel pour affronter les 2 prochains hivers. Le réseau étant européen, la production de Fessenheim sera compensée par l'énergie des centrales à gaz et au charbon, situées chez nos voisins, notamment allemands, avec un sérieux bémol, une hausse des émissions de gaz à effet de serre, comprise entre 6 et 10 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Et à terme, ce sont bien 14 centrales nucléaires qui devraient être démantelées.
Alors, ça veut dire qu'il va falloir compenser. L'idée, c'était quand même de mettre le paquet sur le renouvelable. On en est où?
Oui, 32% d'énergie renouvelable, c'est l'objectif à atteindre d'ici 2030. En France, en 2017, à peine 5% de notre production totale de courant était générée par l'éolien. Alors, question, combien faudrait-il d'éoliennes pour remplacer les 12 TWh produits par Fessenheim en 2018? Calcul un peu compliqué, car les éoliennes ne fonctionnent à plein régime que 20% du temps. Et oui, pas de vent, pas de courant. Résultat, il faudrait près de 3000 éoliennes. Pour info, la France en compte à peine 10 000 aujourd'hui. Si on imagine des éoliennes plus grandes, on passe à 1900. Et à 500, si on table sur des éoliennes en mer, plus productives. Pour l'instant, l'éolien offshore au large de la France est inexistant. Mais 6 parcs sont en chantier pour une électricité verte demain. À noter que chacun de ces projets a soulevé un vent de fronde, une guérilla judiciaire qui a retardé leur mise en place. Et qui retrouve-t-on parmi ces anti-éoliennes? Des écolos, pardi.
Tiens, tiens, évidemment. Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet. On vous retrouve demain à même heure.
Et c'est un hasard du calendrier, ouais, mais oui. Cette fermeture de Fessenheim intervient pile au lendemain donc, de cette vague verte au municipal.
Et les écologistes qui ont conquis plusieurs grandes villes, et notamment Strasbourg, pas très loin de la centrale, mais aussi Lyon et Bordeaux, où nous sommes ce soir.
Oui, à quoi ressembleront ces villes à présent gouvernées par les écologistes? Les futurs maires ont déjà la tête dans les dossiers. À Bordeaux, c'est Pierre Urmic, dans l'opposition depuis 25 ans, qui va devenir maire. Stéphane Place, quelles sont ses premières mesures?
Oui, déterminé à appliquer son projet, Pierre Urmic compte par exemple et très vite freiner les ardeurs des promoteurs immobiliers ici à Bordeaux où les constructions se multiplient pour répondre à une demande très forte.
L'urbanisme tel qu'on le connaît aujourd'hui à Bordeaux, qui a abouti à cette bétonisation outrance de la ville, c'est terminé. Désormais, on ne pourra plus construire sur nos derniers espaces de nature. C'est pour ça qu'on va décréter le zéro artificialisation des sols. Il faut construire la ville sur la ville, quoi. Sur ce qui est déjà artificialisé, déjà imperméabilisé.
Préserver les espaces verts, réduire encore la place de la voiture, recruter des policiers municipaux. Pierre Urmic espère également se débarrasser du stade Matmut, sortir du contrat de partenariat public-privé et vendre l'équipement au club des Girondins de Bordeaux.
Je vais essayer de le vendre. Je vais d'abord casser le PPP qui nous unit à SBA, c'est-à-dire à Vinci et Faya. Et après, oui, je considère qu'il est naturel que tel équipement soit à la charge de son bénéficiaire plutôt que de la collectivité jusqu'en 2045. Et je suis persuadé que le club peut être intéressé.
Et puis, partant du principe que la commodité des uns, c'est la pollution des autres, dit-il. Le prochain maire écologiste de Bordeaux est opposé au maintien de la navette aérienne Bordeaux-Paris puisque les deux villes sont reliées par le TGV en 2h04 de trajet.
Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1.
Et au lendemain de ces municipales, Emmanuel Macron a affiché son ambition écolo ce matin. Il recevait dans les jardins de l'Élysée les Français tirés au sort qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat.
Et il est temps d'agir, a-t-il dit. Il a retenu la quasi-totalité des propositions qui ont été faites par cette Convention citoyenne. Il y en avait quelques 140 propositions pour encourager la rénovation thermique des bâtiments, arrêt de la bétonisation, moratoire sur la construction de nouvelles zones commerciales pour favoriser le commerce de centres. Ville. Le président promet 15 milliards d'euros sur 2 ans pour cette transition écologique et se dit prêt à soumettre certaines mesures à référendum. En tout cas, il écarte le passage à 110 km/h sur autoroute qui avait fait tant parler la semaine dernière.
Et demain, soignants et médecins seront dans la rue pour une nouvelle journée de mobilisation pour l'hôpital.
Les avancées du Ségur de la santé, qui est toujours en cours, sont jugées insuffisantes, notamment sur la question de la revalorisation des salaires. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a dévoilé le montant de l'enveloppe promise aux praticiens hospitaliers, aux médecins, 300 millions d'euros. Loin du compte pour le porte-parole de l'association des urgentistes, Christophe Prudhomme.
Le retard pris. Ces dernières années, la situation de l'hôpital nécessite aujourd'hui un véritable choc. Donc il faut des sommes très conséquentes. Et comme en plus, rien n'est avancé sur les deux autres revendications qu'on soutient en commun, à savoir des effectifs, c'est-à-dire des recrutements et surtout l'arrêt des plans de restructuration, ça ne suffit pas. Hein.
Vous attendiez combien ?
On attendait ce qui permettrait de revaloriser les grilles de 30%. Enfin, on a un certain nombre à avoir chiffré, mais on se rejoint largement là-dessus, à une première enveloppe d'un minimum de 15 milliards. Alors là, on est à 6 milliards plus 300 millions. Vous voyez bien qu'il y a encore une grosse marge.
Donc la mobilisation continue?
Ah ben la mobilisation continue, et elle va même s'amplifier. Il y a une colère qui est énorme, hein, et qui monte. C'est-à-dire que là, non seulement on va se mobiliser demain, mais si rien ne bouge, on a déjà prévu une mobilisation le 14 juillet, et ça ne sera pas à l'invitation de M. Macron, hein.
Le porte-parole de l'association des médecins urgentistes, il répondait à Mathieu Charrier.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et à suivre dans votre édition de 19h, François Fillon et son épouse qui font appel, il y aura un nouveau procès.
Et puis demain dans Le Monde, la lutte contre le terrorisme au Sahel, grand sommet africain demain. Emmanuel Macron fait le déplacement.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
François et Pénélope Fillon font appel. Ils ont été lourdement condamnés cet après-midi dans l'affaire des emplois fictifs.
Pour détournement de fonds publics, François Fillon condamné à 2 ans de prison ferme plus 3 avec sursis, 375 000 euros d'amende, 10 ans d'inéligibilité. Le couple devra aussi rembourser les salaires qui ont été versés à Pénélope comme assistante parlementaire. Au total, 1 million d'euros à rembourser à l'Assemblée nationale. C'est exactement ce que réclamait l'avocat Maître Yves Claisse.
Le montant des sommes allouées est conforme à ce que nous avions demandé, c'est-à-dire encore une fois, pas les sommes perçues, mais les sommes payées, extraites du budget de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les rémunérations, les cotisations sociales salariales et les cotisations sociales patronales. 1 081 000 euros et quelque chose. Le jugement est sévère, mais je dirais dans la ligne d'autres jugements qui ont été rendus dans ce domaine. Mais il est effectivement très sévère.
Un propos recueilli par Salomé Legrand pour Europe 1.
Et là, dans une seconde, à 19h20, juste après le journal, la réponse de l'avocat de François Fillon, maître Antonin Lévy, qui répond à mes questions sur Europe 1.
Demain dans le monde, bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Emmanuel Macron sera en Mauritanie demain pour le sommet du G5 Sahel, les 5 pays africains les plus frappés par le terrorisme. Un point donc avec ses chefs d'État sur l'évolution de la menace djihadiste qui a tout de même été sérieusement contenue au cours des 6 derniers mois.
Ah bah oui, la force Barkhane a clairement repris l'initiative et le président français arrive à cette réunion auréolé du succès de ses troupes, ce qui était loin d'être le cas lors du dernier sommet du G5 à Pau, c'était en janvier dernier. Il faut dire qu'à l'époque, un nouveau groupe terroriste venait de se constituer sur la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina, lançant des raids particulièrement meurtrier sur les postes militaires isolés de ces trois pays. Puis la France venait de perdre 13 soldats dans un accident d'hélicoptère. Donc on sentait naître un début de panique chez les Africains dont le président burkinabé se faisait alors l'écho.
2019 a été une année difficile. Pour le Sahel, nous devons passer à une étape supérieure dans le cadre de la coordination de nos opérations.
Et quand même Didier, il s'est passé tellement de choses pour contenir tout ça. Qu'est-ce qui a permis de ce retournement de situation ?
Eh bien justement, ce sont les décisions qui ont été prises lors de ce sommet de Pau, et c'est comme les avait d'ailleurs résumé Emmanuel Macron.
Nous changeons la méthode en mettant en place une coalition militaire avec un commandement conjoint entre la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, avec une latitude d'engagement beaucoup plus forte.
Voilà, en clair, d'un point de vue militaire, la France a envoyé sur place des renforts, presque 1000 hommes supplémentaires, avec pour consigne de ne plus retenir les coups et de systématiquement associer les armées africaines à leurs opérations. Résultat, les terroristes ont grandement perdu l'initiative parce qu'ils doivent passer plus de temps à se protéger. Et l'élimination du grand émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique au début du mois est l'illustration de ce changement de pied.
Voilà, merci Didier François. Ce rendez-vous donc en Mauritanie demain. Et en attendant, ce soir, Emmanuel Macron dîne avec Angela Merkel à Berlin, ou dans la banlieue de Berlin ce soir, pour évoquer notamment le plan de relance européen.
Merci beaucoup. On se retrouve Sébastien à 19h30 et du côté du temps, Anissa, une France coupée en deux demain.
Exactement Nathalie, une nouvelle fois c'est la Loire qui va servir de frontière entre ces deux France. Demain, deux France bien différentes. Au nord de la Loire, nous aurons une nouvelle dégradation qui arrive par l'ouest et qui vous apporte de nombreux nuages avec sur les pays de la Loire, les côtes bretonnes, le littoral de la Manche, les Hauts-de-France et puis une partie des Ardennes aussi, des petites averses tout au long de la journée. Voilà. Ce ne seront pas des trombes d'eau, mais ce seront des petites averses qui vont durer du matin jusqu'au soir. Et puis le vent qui est également de la partie demain avec des rafales jusqu'à 90 km/h sur la moitié sud. Là, c'est une journée très estivale. Plus vous irez vers le sud, plus le ciel sera clair. C'est-à-dire que sur l'Auvergne, on aura quelques passages nuageux. Et puis alors vraiment au bord de Méditerranée, là, ça sera un grand beau soleil. Les températures, eh ben, elles révèlent ce qui se passe dans le ciel puisqu'il fait plus frais sur la moitié nord que sur la moitié sud avec 8 degrés à Charleville-Mézières, 11 à Metz et Colmar, 14 à Brest et Toulouse, 15 à Paris et jusqu'à 21 à Nice. Ça, c'est pour le matin. Et au meilleur de la journée, nous aurons 19 à Brest, 21 à Quimper et Vannes, 23 à Rennes, 25 à Nancy et Biarritz, 27 à Paris, Bordeaux, Limoges, 29 à Chambéry, 30 à Marseille, 32 à Carcassonne. Je continue, 34 à Avignon, je ne m'arrête pas
là. Ça monte.
35, la maximale pour Nîmes.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et votre invitée dans un instant, Nathalie.
Et oui, quelle va être la stratégie de défense de François Fillon, des époux Fillon? En fait, l'ancien candidat à la présidentielle a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes pour l'affaire des emplois fictifs. Aujourd'hui même, ses proches dénoncent un acharnement. Son avocat, maître Antonin Lévy, est justement mon invité dans 2 minutes et c'est sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy, et on se tourne vers demain. Quelle stratégie de défense pour François Fillon, son avocat maître Antonin Lévy est votre invité.
Bonsoir maître Antonin Lévy.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être à mon micro ce soir sur Europe 1. Vous êtes l'avocat de François Fillon, ex-candidat à la présidentielle. Comment qualifiez-vous aujourd'hui cette décision ?
Écoutez, c'est une décision injuste. Et je sais que ce mot
peut choquer quand on parle d'une décision de justice, mais elle est injuste pour plusieurs raisons. La première, c'est que sa sévérité n'est pas justifiée dans la motivation qui est la sienne. C'est-à-dire que concrètement, on a repris les éléments du juge d'instruction en les copiant-collant dans une décision pour, j'ai envie de dire justifier le terme, est presque trop généreux, une peine qui, je crois, était presque fixée d'avance. Et elle est injuste ensuite, parce que quand on regarde tout ce qui se passe depuis ces derniers jours, les déclarations extrêmement importantes de la procureure de la République financière, sur lesquelles on reviendra sans doute dans quelques instants, tout cela, Madame Lévy, est absent, mais totalement absent, pas un mot, pas une ligne dans ce jugement.
Mais maître, comment vous expliquez que, parce que le parquet avait requis 5 ans de prison, dont 2 fermes contre François Fillon, on arrive au bout du compte exactement à la même chose aujourd'hui? C'est presque rarissime.
Oui, c'est en effet rarissime, surtout de voir, je crois, un travail qui a été fait par la défense, de voir les éléments qu'on a pu produire, de voir les 3 semaines de débat que nous avons eues écartées en, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai lu la décision relativement vite, mais en quelques pages, 42 attestations versées au débat, dont on considère en 2 pages, un petit peu plus, 2 pages et 1 paragraphe, qu'elles ne sont pas probantes. 4 témoins qui sont venus à l'audience et qui ont été entendus pendant toute une après-midi, où on vous explique en 2 paragraphes que finalement, ce n'est pas suffisant.
Alors c'est quoi, maître Lévy? La justice s'emballe dans ce type de dossier, comme elle se balkanise? On pourrait revenir à ça. Qu'est-ce que c'est? Elle s'emballe dans ce type de dossier, c'est ce que vous dites?
Non, ce que l'on constate, c'est d'abord, heureusement, qu'il existe un droit d'appel et qu'on peut peut-être, avec le recul et justement un peu plus de recul, venir faire rejuger ces faits.
Vous allez faire appel, hein, vous l'avez dit immédiatement.
L'appel est déjà fait, l'appel est fait. Il a été introduit immédiatement, sans l'ombre d'un doute. Il n'y a même pas le début du commencement du quart d'une discussion, parce que ce jugement, en fait, se contredit en lui-même dans tous les sens.
Maître, il y a effectivement le dossier dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Vous avez vous-même demandé in extremis la réouverture du procès à l'aune des déclarations, vous l'avez cité, de l'ex-procureur Éliane Houlette. Vous ne l'avez pas obtenu. Et puis cette décision aujourd'hui, finalement conforme aux réquisitions, c'est pas un nouveau camouflet ?
On a surtout l'impression que les choses sont un tout petit peu écrites d'avance et que quoi qu'il se passe, que l'on verse des éléments à décharge, que l'on produise des témoins, qu'on ait un procureur en charge du dossier qui vous indique qu'elle a fait l'objet de pression, tout ce qui peut se passer, absolument tout, ne viendra pas ébranler le rail de la décision de condamnation dont on se demande aujourd'hui s'il n'était pas écrit dès l'origine.
Bon, on va voir ce que vous réclamez pour l'appel dans une seconde, mais votre client, bien entendu, François Fillon, comment est-il? Comment a-t-il pris cette décision?
Écoutez, c'est une décision sévère qui, je crois, le rend encore plus combatif. Les mots qui ont été employés à son encontre sont d'une très grande cruauté et, à nouveau, je crois, d'une très grande injustice. On n'a pas tenu compte des explications qu'il a pu fournir. On n'a pas tenu compte des éléments à décharge qu'il a pu fournir. On s'est simplement focalisé, parfois avec une forme de mauvaise foi. Je considère qu'il y a dans cette décision une grande part de mauvaise foi, que la défense qu'il a pu apporter n'était pas convaincante. On verra si les juges d'appel seront du même avis.
La mauvaise foi, ce sont vos mots, mais lui, ses mots à François Fillon, maître Lévy, quels sont-ils à l'issue de cette décision?
Les siens sont encore plus durs que les miens. Et quand on voit aujourd'hui les éléments qui commencent à sortir, quand on voit les commissions d'enquête qui sont en cours et le début, je crois, de grandes révélations que l'on va avoir dans ce dossier, le procès en appel sera encore plus intéressant que le procès en première instance, et c'est ça qu'il attend avec impatience.
Alors, c'est pas l'amende qui pèse aujourd'hui, maître Antonin Lévy, on rappelle quand même ce montant, 375 000 euros d'amende, mais c'est peut-être surtout la sanction morale et politique, les 10 ans d'inéligibilité. Comment l'homme politique reçoit cette sanction-là?
Vous savez, François Fillon s'est retiré de la vie politique. Je crois que cette position qui est la sienne n'est remise en cause par personne. Et on voit bien justement que ce que l'on a cherché à punir, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas François Fillon, c'est l'homme politique qu'il n'est plus. Et donc il y a une forme finalement de discordance entre la sanction que l'on veut prononcer et l'homme que l'on punit. Ça n'a pas de sens de mettre 10 ans d'inéligibilité à quelqu'un qui ne se présente plus à rien et qui ne se présentera plus jamais à rien. Et pour autant...
Il ne se présentera plus jamais à rien, vous nous dites qu'il n'a pas caressé l'espoir.
C'est lui qui l'a dit, qui l'a redit et qui l'a réaffirmé à de très nombreuses reprises. Il a tourné la page de la vie politique et pour autant, c'est bien l'homme politique que l'on a cherché à sanctionner.
Évidemment, maître Antonin Lévy, l'appel, vous l'avez dit, vous avez été très vite, immédiatement. Si vous ne faisiez pas appel, François Fillon recevait une convocation et devait se présenter au juge d'application des peines. Hein, c'est comme ça que ça se passe et l'appel anéantit tout. Qu'allez-vous demander en appel ?
En appel, il y aura de très nombreuses choses qui vont pouvoir être faites. La première, c'est qu'on va pouvoir approfondir la question que l'on commence à toucher du doigt et que le tribunal n'a même pas voulu regarder, qui est celle de l'ingérence du parquet général dans le dossier qui est le nôtre. On va pouvoir, j'espère, s'intéresser aux pressions qu'a subies la procureure de la République financière à l'époque. Et on va pouvoir, sans doute, s'interroger sur la manière dont les juges d'instruction ont été désignés et dont cette enquête a été conduite.
On a vu que Bernard Tapie avait été relaxé par le tribunal correctionnel, donc ça peut exister. Vous pouvez vous attendre à ce type d'issue demain ?
Écoutez, on considère que les éléments qu'on avait versés étaient suffisamment probants. Vous savez, ça paraît négligeable quand c'est balayé en deux pages, mais 42 attestations de personnes qui attestent du travail de Pénélope Fillon, c'est plus que la totalité des témoins de l'accusation qui ont été réunis dans le cadre de l'enquête. Donc il faudra que les juges d'appel se penchent sur les éléments qui ont été versés par la défense.
Mais quand même, maître Antonin Lévy, votre client François Fillon disait dans sa campagne en 2007 « Mon seul juge sera le peuple français », je synthétise, puisque la justice, c'est la représentation quand même du peuple, est forcé de constater que c'est la double peine, la justice le sanctionne encore.
Je pense qu'aujourd'hui, et on le voit, je vais vous dire avec les éléments qui sortent, pas seulement dans ce dossier mais dans d'autres, quand on a une justice qui met les avocats sur écoute, dans d'autres dossiers, quand on a une justice qui s'en prend à la défense et dont on peut s'interroger sur la question de savoir si l'état de droit est parfaitement respecté, permettez-moi de penser que l'incarnation du peuple français n'est peut-être plus tout à fait ce qu'elle est censée être. Et je crois, j'espère, et la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice va peut-être y contribuer, que nous sommes à l'aube d'une réforme profonde de nos institutions et de l'autorité judiciaire.
Mais là, vous doutez, donc c'est ce que vous nous dites. Justement, sur les écoutes, parlons-en, le procès des écoutes de Nicolas Sarkozy, qui se déroulera d'ailleurs à partir de fin novembre. Vous pensez, avoir été écouté, maître Antonin Lévy ?
Non, je pense que aujourd'hui ce n'est pas la question. Mais quand on voit ce qui se passe dans d'autres dossiers qui étaient sous enquête au même moment, l'on se dit en effet que l'autorité judiciaire est capable de tout. Et lorsque l'on est capable d'écouter pendant des mois des avocats, de les suivre, oui, de demander la liste de leurs appels et leur géolocalisation, finalement, je vais vous dire, le fait de conduire une enquête à charge est presque minime à côté des violations qu'on peut voir dans d'autres dossiers à côté.
Il y a quand même deux choses. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, François Fillon, son ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, finalement, qui ne sont pas en odeur de sainteté avec cette affaire des écoutes qui se présentera de novembre à décembre. Et puis l'appel, pour vous, ça donne aussi aux Français, aux auditeurs, une image de nos dirigeants aujourd'hui qui avancent. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il est essentiel que les hommes et les femmes politiques puissent répondre des actes qu'ils ont pu commettre devant des juridictions. L'homme et la femme politique ne sont pas au-dessus des lois, mais ils ne sont pas pour autant en dessous. Et le traitement de défaveur dont bénéficie le personnel politique devant les juridictions pénales doit changer. L'homme politique n'est pas un justiciable comme les autres aujourd'hui, et les juridictions d'exception ne doivent pas exister en France.
Deux questions très rapides, maître Lévy. François Fillon vous a renouvelé sa confiance pour l'appel ?
Je crois que la question ne s'est jamais posée.
Merci beaucoup, maître Antonin Lévy, d'être venu ce soir sur Europe 1 répondre à mes questions. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Restez avec nous à 19h30, les nouveaux adeptes de l'école à la maison. Est-ce que le confinement a changé votre regard sur l'école ? On attend vos témoignages. C'est au 3921, hashtag Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec dans un instant les infos, Nathalie Lévy, puis la suite du programme avec les auditeurs d'Europe 1.
Oui, parce qu'on va vous poser cette question dans quelques instants. Est-ce que le confinement a fait de nouveaux adeptes de l'école à la maison ? Est-ce que vous avez changé votre regard sur l'école, la manière d'appréhender la scolarité de vos enfants ? Est-ce que les enfants sont en demande du travail à la maison ? On va en parler avec nos invités, bien sûr. Et puis la question, c'est aussi de savoir si certaines populations sont plus ou moins tenter, et si c'est plus facile effectivement quand on est en ruralité ou en ville. Voilà ce qu'on va développer évidemment avec vos questions et vos témoignages au 3921 hashtag Europe 1. Nos invités vont s'installer dans un petit instant dans ce studio. On va aussi revenir sur les grands titres de l'actualité, évidemment la convention climat et la prise de parole d'Emmanuel Macron à la mi-journée. Macron plus vert que jamais, c'est notamment avec vous qu'on va en parler, Sébastien Krebs, à 19h30 pour votre rappel des titres.
Et la plus vieille centrale de France débranchée ce soir, la procédure d'arrêt de la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin a débuté. Fessenheim qui s'éteint après 43 ans de service. Soignants et médecins à nouveau dans la rue demain, nouvelle journée pour l'hôpital. Les revalorisations salariales discutées dans le cadre du Ségur de la santé sont jugées insuffisantes. À retenir aussi, il y aura un deuxième procès Fillon. L'ancien Premier ministre et son épouse font appel de leur condamnation prononcée aujourd'hui pour détournement de fonds publics. 15 milliards d'euros pour la transition écologique au lendemain de la vague verte. La réponse d'Emmanuel Macron face à la Convention citoyenne pour le climat. La quasi-totalité de ses propositions seront reprises, mais pas le passage envisagé à 110 km/h sur autoroute. Le Boeing 737 MAX en phase de redécollage, l'avion cloué au sol depuis mars 2019, est soumis depuis aujourd'hui à une série de vols de certification pour évaluer les changements apportés sur l'appareil. Et puis New York, très prudent sur le déconfinement, les mythiques théâtres de Broadway avec les comédies musicales, ces mythiques théâtres ne rouvriront pas avant le mois de janvier 2021.
Merci Sébastien, à demain.
À demain.
18h évidemment. Anissa, le temps avec deux saisons en fait.
Oui, c'est ça, on va résumer ça comme ça. Effectivement, nous aurons une journée printanière tristounette sur la moitié nord du pays et une belle journée estivale sur la moitié sud. Et la limite, eh bien, ça sera la Loire qui va la donner. C'est une frontière, effectivement, avec cette nouvelle dégradation nuageuse qui arrive demain sur le pays, qui arrive par l'ouest, qui va d'abord toucher les pays de la Loire, la Bretagne, la Manche, les Hauts-de-France et les Ardennes. Là, le ciel sera couvert avec des averses toute la journée. Et puis sur la moitié sud, c'est du grand beau temps. Attention tout de même au vent hein, sur les côtes varoises, la Corse, le Mistral qui se lève demain. Et puis sur les côtes de la Manche également, le vent souffle. Les températures comptées 18 à 35 degrés demain, 18 en bord de Manche, 35 pour Nîmes.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et ce soir, vous en parliez il y a un instant, jusqu'à 20h. Focus sur un sujet qui a beaucoup fait réagir ces derniers mois. L'école à la maison après le confinement a-t-elle fait de nouveaux adeptes? Nous en parlons jusqu'à 20h avec vos invités. Et avec les auditeurs d'Europe 1, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions, à nous apporter vos témoignages au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, on lit vos messages.
Bonsoir à Philippe Bongrand, bienvenue.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à Cergy, Paris Université. Bonsoir et bienvenue Marie-Toiti Pellegrin.
Bonsoir.
Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital Necker à Paris et puis Pascal Hague est également avec nous, bonsoir. Peut-être dans un petit instant, la fondatrice de la Lab School Paris. Bienvenue à vous dans ce studio à Europe 1. On a vu évidemment, on a fait l'école à la maison pendant ce confinement. Est-ce que vous avez pu observer une envie? Est-ce qu'il y a une tendance claire qui s'inscrit dans le sens d'une continuité dans des familles? Peut-être vous, Philippe Bongrand, pour commencer.
On n'a peut-être pas encore observé de tendance. Ce qui est relativement nouveau, en revanche, c'est que la question peut se poser. Parce que depuis de nombreuses décennies, la croyance d'après laquelle l'école serait obligatoire est très répandue. Et par différents éléments que peut-être la continuité pédagogique, le confinement a catalysé, par le fait d'en parler, comme par exemple le fait de faire cette émission ce soir, ça contribue à faire connaître une possibilité qui a toujours été légale en France, qui est le fait d'instruire dans la famille, et qui, vu les expériences de certaines familles ces derniers mois, peut résonner d'une manière inédite, même si on peut aussi dire que ce qu'ont vécu les familles lors du confinement, c'est autre chose que ce que font les familles qui instruisent à domicile.
Ah, alors vous allez nous expliquer peut-être dans un instant comment ça se passe, la différence effectivement entre les deux. Marie-Toiti Pellegrin, est-ce que vous avez déjà observé ça, des familles qui en sortie de confinement sont venues vous livrer, ben voilà, nous on continue parce que finalement on y a trouvé un sens.
Alors moi j'ai vu des patients qui effectivement ont beaucoup aimé le confinement et qui ont apprécié finalement ce temps avec leurs enfants et avec leurs parents. Mais pour le moment, je n'ai pas eu de situation de famille qui me disait qu'elles allaient poursuivre sur le long terme parce qu'elles m'évoquaient des situations familiales liées au télétravail, à des choses qui étaient en rapport avec le Covid et les parents ne pourront pas poursuivre finalement cette situation sur le long
durablement.
Terme. Mais ils ont aimé. Ils ont aimé être avec leurs enfants à la maison et à les accompagner.
Alors, on est avec des auditeurs également. Laetitia, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Vous faites l'école à vos enfants. Ça a démarré bien avant le confinement. Pourquoi et quel intérêt vous y trouvez ?
Alors moi, effectivement, ça fait plus de 10 ans qu'on fait l'école à la maison. Moi, ce qui m'a motivée en premier, c'est le respect des rythmes de l'enfant. C'est-à-dire pas avoir à les lever le matin, à les coucher tôt le soir, à être dans le speed finalement dans la journée. Et c'est vrai que ça se ressent très bien avec les enfants. Et puis aussi, cette liberté qu'on peut avoir de pouvoir bouger hors des vacances scolaires, de pouvoir aller dehors quand il fait beau, même si officiellement il y a école. Voilà, pouvoir profiter de notre vie de tous les jours avec nos enfants.
D'accord, ça fait 10 ans, donc vos enfants sont en quelle classe pour essayer de situer ?
Officiellement, ils seraient en 4e, 6e, CM2 et grande section.
Ah oui, donc en plus vous en avez plusieurs, donc ça fait du travail à la maison. Et vous repérez par rapport au programme de 4e, des 6e, etc. Et vous êtes complètement dans les clous ?
Alors, je suis pas les programmes scolaires année par année.
D'accord.
Nous, on se réfère au socle commun des D'accord. compétences et connaissances. Donc, voilà, on est dans les clous, en tout cas, par rapport à l'inspection, à l'éducation nationale. Et de toute façon, on a un contrôle pédagogique tous les ans.
D'accord. Donc, très bien. Donc, merci beaucoup.
On est sûr de pas s'éloigner.
Exactement. Et donc, vous persistez, effectivement, avec l'ensemble de vos enfants, de la fratrie. Valérie nous appelle de Levoix-Perret. Et puis, vous allez réagir, bien sûr, Philippe Bongrand et Marie Toiti dans un instant. Marie Toiti Pellegrin. Valérie, bonsoir, bienvenue. Vous êtes donc en banlieue parisienne à Levallois-Perret. Vous, oui. L'école à la maison ?
Ah non, pas du tout, non.
Ah, pourquoi ?
Alors, pour plusieurs raisons. Enfin, je pense que moi, je suis absolument pas pédagogue et c'est pas mon métier. Je vais laisser les profs qui ont été, qui sont prêtes à.
C'est la mission en fait.
Oui, c'est leur mission. La socialisation. Enfin, pour moi, c'est très important qu'elle soit entourée avec des professeurs, avec d'autres élèves. C'est primordial.
C'est pour vous, c'est primordial. Donc, on retourne à l'école et pas de quartier. Merci beaucoup. Donc, on a vraiment, entre Laetitia et Valérie, un pour un contre, c'est très clair. Philippe Bongrand, est-ce qu'on peut réussir à faire l'école à la maison durablement ? On voit que Laetitia le fait avec ses 3 enfants et depuis 10 ans. Donc, j'imagine qu'il faut une organisation terrible, même si elle a l'air d'être assez souple. Mais ça peut fonctionner.
Bien sûr. Alors, ce n'est pas évident de répondre parce que l'instruction en famille rassemble des profils, des pratiques extrêmement différentes. Mais l'exemple qu'a apporté la première auditrice est très intéressant parce que le fait d'avoir différents enfants n'est pas anodin. C'est-à-dire que vous avez un profil ou une trajectoire assez récurrente dans les familles qui font l'instruction à la maison qui est la suivante, c'est que au fond, en devenant maman, parce que c'est souvent une histoire de femme, ça pose des questions importantes de ce point de vue-là d'ailleurs, un premier congé maternité, suivi de parfois un petit congé parental, suivi d'une autre un autre enfant, avec un autre congé maternité, un autre congé parental, et tout ça fait que quand on a plusieurs enfants comme ça, on s'installe dans des rythmes de vie qui cette fois sont des rythmes des parents, parce que votre auditrice évoquait les rythmes de l'enfant, mais en fait, on peut observer que des familles s'installent dans des rythmes qui leur conviennent et qui font que, au fur et à mesure, elle s'installe dans ces manières qui respectent à la fois le rythme de la mère, des enfants, et qui du coup devient une manière viable pour elle et durable.
Et une petite entreprise, d'une certaine manière, à la maison. Enfin, on va voir dans un petit instant. Marie Toiti Pellegrin, quels peuvent être les risques de faire l'école à la maison, quand il y a une fratrie ou pas, quand on a un enfant, en termes de socialisation, bien sûr, avant tout.
Alors, il y a l'idée
pour
de socialisation.
Pour le parent et pour l'enfant, d'ailleurs.
Effectivement, pour le parent et pour l'enfant, puisque ça prend beaucoup de temps aux parents aussi de faire le travail à la maison, à l'école, ne remplaçant pas totalement cet aspect-là. Mais ce que je pense important, là, c'est la notion de plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, cette auditrice, elle dit qu'elle aime instruire ses enfants. Et moi, ce qui me semble un peu difficile dans la situation du confinement qu'on a vécu ces derniers mois, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui ont souffert de voir finalement remplacer un peu les enseignants à ce moment-là avec le télétravail, mais aussi avec les difficultés. Effectivement, être pédagogue, c'est un métier.
Bien sûr.
Et apprendre à un enfant qu'est-ce qu'une division, c'est pas toujours facile. Et donc, moi, je crois que ce qui compte là, c'est vraiment la notion de plaisir et de partage. Et il y a
Est-ce qu'il y a des risques sur le plan social, sur le plan de la sociabilité, durablement, quand effectivement on fait. J'imagine qu'on a un enfant qui étudie à la maison, il faut compléter
l'été par des activités sportives, etc., obligatoirement quand même?
Ah bah ça semble indispensable. C'est-à-dire que, en tout cas, en pédopsychiatrie, on voit des enfants qui, du fait de leur pathologie, ne vont plus à l'école, hein, qui ont des phobies scolaires, et souvent ces enfants se replient sur eux, ne vont plus à l'école, mais ne sortent plus non plus de la maison. Et ça, c'est vraiment une difficulté qui devient finalement de la pathologie. Alors, pour les enfants qui sont instruits à la maison, c'est autre chose, mais en effet, la socialisation et l'école est le lieu, théâtre de la socialisation des enfants. Et donc, les priver de ça, ça peut être quelque chose de difficile. D'ailleurs, on voit que les enfants, quand ils sont sortis du confinement, étaient très contents de retrouver
les camarades, la structure, etc. Juste un mot là-dessus, Philippe Bongrand, et on va se retrouver juste après.
Il faut bien voir que la plupart de ces familles ne sont pas des familles prostrées sur leur domicile et que si elles peuvent apprendre au sein du domicile, parfois elles apprennent aussi à l'extérieur, ont des activités, les enfants sont inscrits comme tous les enfants dans des activités dites de loisirs. Voilà, donc il n'y a pas... Cette question se pose aussi comme pour nombre d'autres d'élèves,
évidemment. On va se retrouver dans un petit instant tous les deux et puis avec nos témoins également par téléphone et puis les tweets, parce qu'il y en a, Anissa. On se retrouve évidemment et c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec ce soir l'école à la maison. Voilà, c'est le thème dont on parle jusqu'à 20h et vous pouvez réagir, vous êtes nombreux sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou 3921. N'hésitez pas à venir partager vos expériences, Nathalie Lévy.
Et oui, parce que le confinement a donné des idées à certains parents, effectivement, et peut-être que certains sont tentés et vont l'être un peu plus demain de faire l'école à la maison. On est en ligne avec Pascal Hague. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice, vous, de la Lab School à Paris. C'est en fait une école pilote qui a ouvert ses portes en septembre 2017. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, vous faites l'école à la fois à l'école et à la fois à la maison dans ce programme?
Alors, dans ce programme, on fait l'école à l'école en temps normal. Mmh. Mais comme on est une école normale, justement, pendant le confinement, on a fait, comme tout le monde, l'école à la maison, qui n'était pas une école à la maison choisie, comme le disait Philippe Bongrand tout à l'heure. C'était une école à la maison qui était subie par, par nos parents d'élèves, comme par tous les parents du monde. Enfin, pas du monde, mais de France, en tout cas.
Et vous êtes également chercheur en psychologie. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un mouvement s'opérer? Un mouvement...
Alors, ce qu'on...
D'école à la maison.
Ce qu'on voit, j'ai tendance en tant que chercheur à ne pas voir des choses à partir de quelques témoignages, mais essayer de mener des enquêtes. Ouais. Et avec le laboratoire auquel j'appartiens, le laboratoire Bonheur, on a mené une enquête auprès d'élèves.
Ouais.
Et l'une des questions qui était posée, c'était: est-ce que vous auriez envie, après le confinement, qu'une partie des cours continue à se faire à distance? Et là, quand même massivement, 70% des élèves ont répondu non.
Non.
C'est-à-dire que 70% des élèves avaient envie de retourner à l'école. Et donc, comme le disaient les invités, les élèves étaient très contents de se retrouver. Mais parmi ces 70%, on a quand même 30% des élèves qui aimeraient bien qu'une partie des cours se fasse à distance.
Ouais.
Et ce qu'ils ont apprécié, pardon, excusez-moi, je finis, ce qu'ils ont apprécié, c'est ce qui a été dit déjà, c'est cette possibilité d'avancer à leur rythme, d'avoir plus de liberté, de se coucher plus tard, de se lever plus tard. Et donc, ils ont eu, en quelque sorte, les bénéfices qu'on peut avoir de l'école à la maison en termes de rythme, et sans avoir les difficultés, puisque les enseignants ont
les
quand même
assuré bien sûr. Merci beaucoup Pascal Hague de nous avoir éclairé là-dessus. Je vais prolonger sur cet aspect-là, Philippe Bongrand, un peu la sociologie en fait de ces personnes, de ces foyers, de ces populations qui optent pour l'école à la maison.
Elle est très diversifiée. C'est-à-dire qu'on a parfois des clichés de familles extrêmement marginales qui sont exclues socialement, ou au contraire de personnes très favorisées, très aisées, qui peuvent se permettre de faire ça. Et en fait, la réalité statistique, telle qu'on essaie de la construire, même si c'est délicat comme opération statistique, montre que ce n'est pas le cas. Je peux vous donner un exemple, c'est que dans un département métropolitain, avec des collègues de l'équipe dans laquelle je travaille, on a essayé de contourner le fait qu'on ne savait pas quelle était la profession des parents qui font l'école à la maison. Donc, n'ayant pas cette information, pour plein de raisons différentes, on a essayé de l'approcher avec le lieu de résidence. Et on a observé que dans un département très urbanisé métropolitain, de l'ordre de 25% des enfants instruits dans la famille habitaient dans des territoires d'éducation prioritaire renforcée, c'est-à-dire on pouvait les approcher de la proportion des enfants qui sont scolarisés dans des établissements en REP+, en éducation prioritaire, qui sont de l'ordre de 5%.
D'accord.
Donc 25% des enfants instruits dans la famille, en fait, on pouvait dire par approximation qu'ils sont plutôt dans des territoires et a priori issus de milieux populaires défavorisés.
D'accord.
Enfin, populaires.
Le... On va revenir sur la durée de la scolarité à la maison. Ça aussi, est-ce que ça peut avoir un impact avec vous, Marie Toiti Pellegrin, dans un instant. On est aussi avec Sandy qui nous appelle de Fouesnant dans le Finistère. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Vous avez 6 enfants. Hein. Vous, de la moyenne section à la 6e, c'est presque une école à la maison à vous toute seule. Une petite entreprise que vous avez. Et vous, vous procédez comment ?
Alors, donc moi, j'étais un peu d'accord avec la personne qui est intervenue avant moi. On a subi au début, puisqu'on était obligé de suivre les cours de chaque professeur, de s'adapter à chaque professeur, et c'était un peu compliqué. Mmh. Donc, j'ai assez vite, finalement, déscolarisé mes enfants pour leur faire des cours par correspondance par moi-même. Voilà. Et du coup...
Mais là aussi, ce sont des programmes différents. Là aussi, ce sont des programmes différents parce que de la 6e...
Oui, tout à fait. Mais j'ai pu me procurer des cours par correspondance. Et du coup, je pouvais moi-même voir la veille ce qu'il y avait à faire exactement, m'organiser beaucoup plus à ma propre façon et j'ai vraiment, vraiment apprécié de passer plus de temps avec mes enfants.
Voilà, et donc ça y est, vous avez opté pour cette méthode-là durablement.
Voilà, exactement, oui, ça y est.
Donc, et vos enfants sont tous adhérés, ils vous disent tous on y va, on continue comme ça, on retourne pas à l'école.
Ben oui. Après on est plusieurs familles de Fouesnant à se lancer, donc c'est très très agréable aussi, on peut se soutenir parce que je suis sûre que ça sera pas rose tout le temps. Mmh. Et du coup chacun sera à l'école à la maison chez soi et ça nous empêchera pas de nous retrouver les après-midi pour des goûters, des musées, plein d'activités et voilà, on fera beaucoup plus de choses qu'à l'école tout le temps.
Merci beaucoup Sandy pour votre témoignage et votre appel ce soir sur Europe 1. Marie-Toiti Pellegrin, c'est quand même édifiant. 6 enfants, ça veut dire du coup de la moyenne section à la 6e, on a 6 types de programmes différents, ça peut être un casse-tête, ça peut virer quand même au casse-tête chinois, mais bon, on entend cette maman qui nous dit ça laissera plus de temps aussi pour d'autres activités, etc. On est comme ça dans quelque chose qui n'est pas sclérosant finalement, apparemment.
Non, c'est-à-dire que là, déjà, elle a toute mon admiration, cette maman, parce que j'ai l'impression qu'elle aussi y passe ses soirées, hein, à regarder le programme et à préparer le travail du lendemain. Donc, bon, ça déjà, vraiment bravo de votre implication. Mais c'est vrai que je pense que toutes les mamans n'ont pas le souhait de faire ça, tous les papas aussi d'ailleurs. Et puis, ça peut être quelque chose qui dans une durée relativement brève, peut-être sympathique, en famille, etc. Mais c'est vrai que moi, je me dis quand même que sur le long terme, l'école, c'est le lieu de la rencontre avec l'autre, on apprend le vivre ensemble, les règles de la vie en société, qu'on apprend aussi à rencontrer des gens qu'on rencontrera pas après dans le reste de notre vie. Et c'est important aussi de pouvoir justement connaître ces gens.
Donc ça veut dire que c'est pas dangereux, selon vous, et on va y revenir dans un petit instant, mais c'est pas dangereux de faire des allers-retours école, maison, plutôt maison, si on a quitté la scolarité pour revenir ensuite dans le système scolaire.
Alors, aller-retour, je pense qu'on ne peut pas en faire 14. Hein.
Non, évidemment.
Mais bon, si ça se passe une fois, typiquement pour les enfants qui ont des pathologies pédopsychiatriques qui justifient des scolarisations ponctuelles, on le fait et le retour se passe très bien. Les enfants sont très contents et très fiers d'eux, en fait, d'y arriver à nouveau.
D'accord. Je vous donne la parole, évidemment, Philippe Bongrand, dans un tout petit instant sur cette question-là également et tant d'autres. À tout de suite, jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec cette question ce soir, l'école à la maison et après le confinement. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous allez vous lancer ? Vous y réfléchissez ? Venez nous le dire au 39-21 et sur Twitter, hashtag Europe 1 avec vos invités, Nathalie Lévy.
Oui, et je voulais évidemment vous interroger, Philippe Bongrand, comme je l'ai fait avec Marie-Toiti Pellegrin, sur le fait de... Voilà, vous nous disiez qu'a priori, il valait mieux faire l'école à la maison sur une durée limitée. Qu'est-ce qui se passe quand on retourne à l'école ?
Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je disais qu'en pratique, des familles majoritaires, sans doute statistiquement, le font pour une raison limitée. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans le département dans lequel on travaillait, la majorité des enfants étaient déscolarisés simplement une année ou moins.
C'est ça.
Donc ensuite, c'est pas forcément dangereux. Peut-être que je déplacerai peut-être la question en me demandant si ça serait pas plutôt dangereux ou inquiétant pour l'institution scolaire qui est absolument pas organisée pour ces va-et-vient et ces scolarisations avec éclipse ou ces décrochages perlés, dirait l'institution scolaire. Et c'est pas prévu pour ça, en fait. Ça peut poser des problématiques particulières parce que les enseignants, ils sont pas formés et pas organisés pour faire face à ce type de comportements qui sont pas anticipés par l'institution, peut-être parce qu'elle les désapprouve, peut-être avec des bonnes raisons aussi.
À tous les deux, je vous pose la question, on va prendre une auditrice dans un instant. Si école à la maison durablement, alors comment assurer que cela se passe bien ? Alors, allez-y et Marie Toiti ensuite. Bah,
L'État y veille, c'est-à-dire que quand vous faites l'instruction en famille, vous recevez une enquête de la mairie tous les 2 ans, un contrôle pédagogique par l'inspection académique tous les ans, parce que le droit à l'instruction des enfants doit être garanti, l'État y veille, et donc il essaie d'observer avec ses moyens que les enfants progressent vraiment et qu'on les instruit et qu'ils ne sont pas abandonnés par des parents malveillants, ce qui est pour l'écrasante majorité des parents instruisant en famille le cas. Ils s'en occupent.
Marie Toti-Pelderin.
Alors moi je crois que, comme je disais tout à l'heure, je pense que le plaisir et la notion de partage est très importante, puisqu'il faut que tout le monde y trouve son compte. Ça c'est le premier point. Et puis je pense qu'il faut pouvoir aussi aborder les choses avec pas trop de dogmatisme et se dire bon ben on teste, et puis si ça se passe pas très bien, si on n'a plus envie, finalement on arrête, parce que l'idée de se projeter dans un avenir de long terme en scolarisant ses enfants à la maison, c'est quand même vraiment quelque chose qui est très engageant pour des parents et aussi qui peut être vraiment quelque chose de frustrant pour des enfants. Et donc voilà, d'être à l'écoute de ses enfants, savoir s'ils y trouvent leur compte ou s'ils souhaitent retourner à l'école.
Évidemment. Alors Lucille nous appelle de Mayenne. Bonsoir à vous Lucille.
Bonsoir.
Bienvenue, vous avez deux enfants, 6 mois et demi et 4 ans, donc on est vraiment au début de la scolarité. Comment ça se passe chez vous ?
Alors, on est plutôt sur du 6 ans et demi et 4 et 5 ans.
Ah, pardonnez-moi, 6 ans et demi et 5 ans. Bon, on m'a dit 6 mois et demi et 4 ans, il faut qu'ils s'achètent des lunettes, hein, de toute évidence.
Donc, c'est plutôt, on est plutôt sur une fin d'année de CP et puis et de la maternelle, donc en grande section de l'année prochaine.
D'accord. Et chez vous, comment ça se passe ? Alors, évidemment, le confinement, c'était à la maison. Et depuis ?
Eh bien, depuis, ils sont retournés là pour dire au revoir aux copains et à la maîtresse. Ouais. Et en septembre, on commence officiellement l'instruction en famille.
Ah, donc vous avez décidé, vous avez été tentée et vous faites partie de ces nouveaux adeptes de l'école à la maison. Qu'est-ce qui retient finalement cette décision ? Qu'est-ce qui fait que ?
Principalement, envie de changement de manière à court terme et à long terme aussi, changement de vision du monde aussi, et apporter une autre vision des choses à mes enfants.
Vision dans l'enseignement, vision par rapport à l'enseignement. Merci beaucoup Lucille. Enfin, je sais pas, je prolonge peut-être ce que nous dit Lucille, mais non,
pas seulement vision de l'enseignement. Ce que je devine dans le propos de l'auditrice, c'est que sa vision plus généralement a changé, parce que ne plus scolariser, ça remet en question le rapport au travail, le rapport à la consommation, parce que tout est un petit peu imbriqué, parce qu'on est dans une société où beaucoup de choses fonctionnent parce que les enfants sont scolarisés.
J'entendais par là aussi vision, par exemple, de ce qu'on peut découvrir de la nature, par exemple, ce qu'on fait assez peu finalement à l'école, si on est en ville, notamment, la manière dont on peut appréhender... Ah, vous n'êtes pas d'accord,
c'est évident. On travaille sur l'éducation au développement durable, à la nature, tout ça est tout à fait objet d'enseignement et d'apprentissage dans les écoles publiques.
Bien sûr, mais peut-être qu'il y a d'autres outils qu'on n'a pas nécessairement à l'école et auxquels on peut avoir accès plus facilement à la maison, tout ce type de rapports autres.
En particulier quand vous êtes dans un ménage qui a les ressources diverses et variées qui permettent de les offrir aux enfants, sachant que l'école publique, parmi ses valeurs fortes, insiste pour dire qu'elle les met précisément à la disposition du collectif, alors que certaines familles peuvent tout à fait dire qu'en effet, elles ont mieux, elles ont plus, elles ont différemment, et dans ce cas-là, à leur échelle propre, peut-être qu'il est effectivement plus
évident de...
plus gagnant de faire l'instruction en famille. Mais ça pose un problème à une échelle collective plus qu'à leur échelle à elle.
Évidemment. Marie Toti-Pelderin, là-dessus ?
Écoutez, moi je pense que l'intérêt de l'éducation en famille est quand même assez restreint, dans la mesure où ça concerne des familles qui effectivement ont les moyens de le faire, de l'organiser, mais forcément, moi je trouve qu'il manque quand même la rencontre avec l'autre, la confrontation avec la différence, avec les moments qui sont parfois un peu difficiles à l'école, où on est confronté à des camarades qui sont tout à fait loin de ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans les milieux qui sont ceux des parents. Et je trouve que ça, c'est une richesse. Et que ça, c'est
un
ce
apprentissage,
qui manque le
plus. Apprentissage supplémentaire.
Et ce qui permet ensuite le tissage du lien social à l'âge adulte.
Anissa, on a un tweet ?
Oui, on a un tweet de Marie qui nous dit « Quels sont les risques de ne pas imposer d'horaire et de rythme en enseignement à la maison ?»
Oui, comme notre premier témoin, Marie Toiti-Pelderin, c'est vrai, elle nous disait ils peuvent se lever du coup à l'heure qu'ils veulent, etc.
Alors ça, moi j'en ai beaucoup vu parmi mes patients au cours du confinement, des enfants qui se levaient à 17h parce que les parents télétravaillaient. Alors, ça fait... Les gens se sont organisés comme ils pouvaient.
Ouais, c'est vrai.
Donc ils télétravaillaient très tôt le matin jusqu'à dans l'après-midi, et puis ils levaient leurs enfants pour pouvoir après avoir le temps de s'en occuper. Sauf qu'en fait, les devoirs à partir de 18h, 20h, les enfants sont plus du tout disponibles. Et puis... Donc je crois que les enfants... Ah ouais.
Non, mais ça, c'est indispensable. Les enfants ont besoin de rythme. Alors, les mamans qui ont été entendues là avaient l'air d'avoir un fonctionnement assez cadré et d'arriver à imposer un rythme à leurs enfants. Mais bon, il y a un horaire à partir duquel, effectivement, il faut avoir commencé à travailler. Et 17h, c'est vraiment trop tard.
Un mot en fin de conclusion, Philippe Bongrand, peut-être effectivement sur le rythme, parce qu'il y a le rythme naturel et puis il y a le rythme qu'il faut s'imposer, peut-être. Et on conclura.
Je dirais que les familles qui s'installent durablement dans ces modalités de vie et d'apprentissage estiment que ce qui va faire le rythme, c'est le fait d'organiser un environnement qui va faire que l'enfant ne va pas vouloir se lever à 17h parce qu'il aura l'occasion de poursuivre ses intérêts, de développer des activités qui seront à minima cadrées, c'est-à-dire que ce ne sera pas n'importe quelle activité, et qui vont faire qu'il y a un équilibre qui va s'installer. Ouais. La plupart des parents qui font l'instruction en famille sans rythme ne sont pas confrontés en pratique à la question que vous posez, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problématiques de ce genre-là parce qu'ils font un petit cadre minimal pour qu'ils ne le perdent pas possible et offrent des alternatives beaucoup plus constructives à leurs enfants.
Bon, merci en tout cas à tous les deux d'être venus ce soir sur ce plateau dans ce studio pour nous en parler. Après 20h, c'est musique présentée par Émilie Mazoyer avec ce soir le groupe Trio et le live, le concert de REM.
Vous vous souvenez, c'est votre adolescence.
Mais oui, mais j'adorais en plus. Mais vous savez, c'est la REM, la République en marche.
Ah oui, c'est ça.
Alors, par quoi ?
Musique et politique.
Allez, merci à tous. Demain, 18h-20h, pour écouter ensemble le monde changé. Merci à tous. Bonne soirée.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.